Hello, my name is Chuck Forsman. I'm from America. I drew a book called The End of the Fucking World, and you are listening to Radio Grand Pepierre.
Et voilà, une pensée pour notre ami Chuck aux États-Unis. Alors vous écoutez Radio Grand Papier, l'émission de bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Bonsoir les amis, bonsoir Thalie.
Bonsoir Johanna.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir Johanna.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Il y a un trou, c'est Nicolas qui est parti en Thaïlande. Nicolas, on pense à toi, j'espère que tu nous écoutes, malgré le décalage horaire, évidemment. Alors, ce mois-ci, quatre nouveautés. Yekini, le roi des arènes, de Lisa Lugrin et Clément Xavier chez Flubbelub. On va parler aussi de Fran, de Jim Woodring, à l'association. Julio, de Gilbert Hernandez, chez Atrabil. Et puis, le tournevis d'Olive Bouger, à l'employé du mois. On aura aussi une petite rubrique grand papier par Stéphane Noël, une rubrique jeunesse par Thalie et enfin un invité comme d'habitude. Ce mois-ci, c'est Émile Bravo que vous allez entendre. Alors, il n'est pas ici aujourd'hui, il fallait choisir, c'était Obama ou Émile Bravo aujourd'hui à Bruxelles. Et c'est Obama qui l'a gagné, ils ont fait ça au bras de fer. Donc Émile Bravo était là il y a 2 semaines pour signer les derniers livres, notamment Le Jardin d'Émile. Le Jardin d'Émile Bravo au Rocamarteau, mais aussi son histoire de Spirou, le journal d'un ingénu, et puis le dernier Jules chez Dargaud. Il nous signait tout ça à Bruxelles, et donc on a sauté sur l'occasion pour enregistrer ce charmant auteur. Et donc vous l'écouterez en deuxième partie d'émission. On va commencer avec toi, Philippe. Tu vas nous parler de Yekini.
Voilà, donc on a déjà dit, Yekini, le roi des arènes, publié chez Flubbelub. Les auteurs ne sont pas des inconnus, Lisa Lugrin, Clément Xavier. Pour les fidèles auditeurs, on les avait reçus dans cette émission il y a plus ou moins 2 ans. Et ils nous avaient parlé de tous leurs projets passés, présents et à venir à l'époque aux éditions NA. Donc les éditions NA, c'est les éditions qu'ils ont créées. Donc, très vite, chez NA, il y a notamment des revues internationales de bande dessinée, Modern Spleen et L'Épisode. Ils ont fait de nombreux ateliers bande dessinée aussi qui ont débouché sur de très chouettes publications qui s'appellent Django Banjo et Légende du Voyage, qui étaient des ateliers de bande dessinée faits avec des enfants, des familles, des gens du voyage. Une collection aussi 48cc avec trois titres je pense jusqu'à présent, mais ces auteurs ont aussi des récits sur grand papier, toute une ribambelle de fanzines auto-publiées, et alors chacun aussi avait un récit dans le collectif Afghanistan chez Flubbelub paru en 2011. Et alors donc je disais, donc à la fois auteur et éditeur, donc ils viennent de sortir un bouquin chez NA que je vais signaler quand même parce qu'il me semble assez intéressant. C'est un bouquin de Pina Chang dont on avait aussi parlé il y a quelques semaines dans une rubrique grand papier qui s'appelle Visiter tous les pays. Bref, des jeunes gens très actifs qui ont la bougeotte, qui ont pas mal voyagé et donc rien de très surprenant à les retrouver au Sénégal. Donc Yekini, en effet, l'action de ce bouquin se passe au Sénégal, où les deux auteurs ont été. Et donc on se retrouve au Sénégal, où la lutte traditionnelle est devenue un sport plus populaire que le foot. Alors quand on sait maintenant que tous les matchs internationaux, mais même le moindre match de compétition belge est rediffusé partout dans le monde entier, sur toutes les télés, le fait que la lutte traditionnelle soit comme ça plus populaire que le foot, c'est quand même assez remarquable. Et elle est notamment plus populaire à cause du cirque médiatique et du business qui entoure cette discipline. Alors c'est quelque chose qui ne plaît pas beaucoup à Yekini, qui est un peu le personnage principal de cette histoire. Yekini, qui est un lutteur donc, qui existe, hein, les personnages dont on parle là sont des gens qui existent vraiment. Hein, il y a des photos d'eux dans le bouquin. Yekini, qui est une sorte de lutteur assez charismatique et assez intègre. Et donc toute cette dérive autour de la discipline, dérive médiatique et au niveau du business, ne lui plaît pas beaucoup. Alors que, à l'inverse, il y a un vieux loup là, hein, qui est un lutteur qui s'appelle Tyson. Et alors, à l'inverse, un jeune loup qui s'appelle Balagué, qui est des personnages comme ça assez bien campés, qui eux jouent à fond cette carte-là et qui à la fois gagnent beaucoup d'argent en négociant des contrats pour ses combats. Et voilà, joue à fond de toute la pub, de tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a autour de ces lutteurs. Donc Yekini, dans un premier temps, c'est l'histoire, c'est le parcours de ces trois lutteurs, donc aux personnalités assez différentes. Alors à la fois leur ascension, leur popularité, mais aussi leurs doutes et leur déclin pour notamment deux d'entre eux, les plus anciens. Mais les auteurs, et c'est une des choses qui fait l'attrait de ce bouquin, les auteurs ont vraiment ouvert le champ... Le champ de vision dans ce bouquin. Et finalement, au travers du parcours de ces trois lutteurs, c'est tout un portrait de la société sénégalaise qui est dressé. Alors en vrac, on parle des superstitions, des croyances, donc on parle de religion. On parle pas mal de la lutte entre la modernité et les traditions, entre un modèle plus occidental et un mode de vie plus local. Et puis on parle pas mal aussi de crise politique. Au moment où les deux auteurs sont sur place, c'est une période d'élection et le pays doit un peu choisir entre, il est à la croisée des chemins, il doit un peu choisir entre la dictature qui est représentée par l'homme politique en place là depuis très longtemps, qui lui promet une forme de stabilité et une forme de renouveau et plus de démocratie qui est représentée un peu par les nouvelles forces politiques. Et donc tout ça est évoqué, donc c'est un contenu comme ça assez foisonnant, moi je trouve très prenant en fait, dès le début on est plongé comme ça là-dedans et assez original aussi parce que je pense que c'est un sujet qui est assez peu évoqué, l'Afrique de manière générale et alors comme ça plus ciblé autour de ce sujet de la lutte.
Peut-être ce qu'il faut préciser par rapport à ça, c'est que c'est un récit hybride, dans le sens où c'est des faits réels, des personnages réels, un vrai portrait du Sénégal, mais c'est quand même une fiction, il y a quand même un travail d'écriture, des auteurs, donc c'est quand même un mélange des deux.
En fait, c'est une sorte de... C'est difficile à dire, j'ai l'impression qu'ils ont été récoltés beaucoup de matériel là-bas, et puis après, ils ont bouché les trous ou raconté des choses qu'eux avaient envie de raconter, en fait, autour des personnages. Et donc c'est ça qui, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a non seulement tout le contenu qui est très intéressant, mais aussi au niveau de la forme, moi c'est ce qui m'a énormément plu aussi, c'est qu'on n'est pas dans un récit documentaire ou analytique, tout ça est raconté de manière très naturelle, très sincère. Alors il y a le dessin qui est vraiment très élégant, il y a l'utilisation je trouve assez judicieuse et assez étonnante de documents photographiques comme ça qui viennent ponctuer le récit, qui viennent presque un peu le chapitrer. Il y a un récit BD à un moment dans la bande dessinée, donc j'ai trouvé ça à la fois très intéressant en termes de contenu mais aussi en termes de forme inventif, j'ai trouvé ça drôle, bien construit. Touchant, intelligent. En fait, on sent qu'il y a eu vraiment un gros travail à la fois au niveau des auteurs et au niveau des éditeurs, évidemment. Donc, un récit qui a beaucoup de qualité narrative. Et je terminerai en disant que moi, ça m'a fait penser à deux récits que j'ai lus en 2013. La propriété de Ruto Modane et Cette saison de Villeranta. Alors, ça ne me fait pas penser à ces deux bouquins-là en termes de contenu. Pourquoi ça me fait penser à ces deux autres bouquins-là ? C'est parce que pour moi, Ikekini, ce sont des bandes dessinées vraiment lumineuses, pleines de talent, qui en fait redonnent un peu vigueur au genre de la bande dessinée. On lit beaucoup de choses qui réveillent pas grand-chose en nous, qui sont un peu plates. Et donc pour moi, Ikekini, la propriété ou cette saison, c'est des choses qui impulsent autre chose et qui en plus, des bandes dessinées dans lesquelles le lecteur est vraiment accueilli à bras ouverts dès les premières pages. Ce sont des véritables dons pour moi, ce genre de bande dessinée. C'est un vrai partage entre l'auteur et le lecteur. Et donc, j'ai ressenti à la lecture de ces bandes dessinées que j'évoque un vrai bonheur de lecture, quoi. Et je pense que Yekini, pour moi, en tout cas, se profile déjà comme l'un des meilleurs albums de 2014, en tout cas l'un des plus intéressants. Je finirai en disant que pour ceux qui ont du temps ou qui sont dans le coin, il y a une dédicace de ces auteurs, donc samedi 29 mars chez MultiBD, mais je pense que tout est dans l'agenda sur le site. Mmh,
tout à fait.
Ouais, moi je voulais juste réagir, un peu comme Philippe, je trouvais ça très rafraîchissant comme lecture, on entre vraiment bien dans l'ambiance. j'avais un petit bémol, c'est que moi j'ai l'impression que le récit s'essouffle un peu sur la longueur, que c'est quand même assez fort répétitif, que toutes ces scènes de lutte, le combat de Yekini contre Tyson, le combat de Tyson contre... voilà, il y a un côté un tout petit peu répétitif qui sera voilà, mon petit bémol, mais j'ai néanmoins beaucoup apprécié ce Yekini.
Mais en termes d'objets, hein, c'est un livre assez conséquent, et donc c'est vrai qu'il y a de la densité au niveau du récit. Et bon, c'est vrai que voilà, on n'est pas d'office passionné par la lutte, donc on peut avoir un peu un intérêt qui peut un peu s'éloigner au fur et à mesure de la lecture. Moi, j'ai quand même trouvé que c'était un récit très très audacieux et très complet. En fait, c'est un vrai boulot. Il y a dans le côté fait réel. Voilà, pour ça, il est quand même très très intéressant. Et le dessin est donc dessin au crayon. Je crois que tu l'as pas dit, Philippe. Et voilà, c'est un dessin très très chouette, je pense qu'il faut en parler, ça se lit très bien et c'est assez séduisant.
Moi qui suis attentif aux postures, je trouve que la manière dont sont dessinés les corps en mouvement est assez chouette. Il y a un beau découpage sur les gestes de la lutte.
On sent que c'est des gens qui ont quand même bien bossé. Voilà, pour conclure, on va passer à Fran, Stéphane.
Absolument. Alors, Fran de Jim Woodring. Alors, Jim Woodring, c'est un auteur qui est venu tardivement au dessin, comme vous le savez peut-être. Il est né en 52, ça lui fait 61 balais, ce gars. Et après avoir travaillé comme éboueur, ce qui est rare dans le milieu de la BD, il s'est auto-formé au dessin, puis est entré dans les années 70 au studio Ruby Spears Production, alors qui est un petit studio d'animation, enfin pas si petit que ça, puisqu'il va, il a été fondé par deux animateurs qui avaient notamment travaillé sur les premiers Scooby-Doo de Hanna-Barbera, donc ça donne tout de suite le palmarès. Le studio bosse sur de l'animation commerciale, hein, des trucs comme Looney Tunes dans les années 90, Alvin et les Chimpanzés. Donc des grosses bonnes bouses. Woodring, donc, il fait son travail, il a ses écoles là-bas, donc il a bossé quand même un paquet d'années à faire, à mon avis, du gros nez façon US. Et sur le côté, il a commencé à publier des choses. Et très rapidement, un style s'installe et son travail vraiment semble s'orienter sur la transfiguration des rêves délirants d'enfants. Ou quelque chose comme une compréhension animiste du monde extérieur. Donc voilà, on va revenir là-dessus. Alors il démarre Jim, qui est une autopublication dans les années 90, et rapidement il est remarqué par Photographic Books et publié chez eux à partir de 94, je crois même un peu avant. Alors l'univers de Jim, puis de Frank, et maintenant celui de Fran, est silencieux, mais rempli de formes violentes et de causalités disloquées. Le style de Woodring est très marqué. Il a eu très vite une forme de maîtrise virtuose de la trame, du décor, de l'arabesque, qui fait que on le reconnaît très vite. Quand on a vu un Jim Woodring, on reconnaît directement un autre Jim Woodring. C'est un style très, très, vraiment très, très reconnaissant. Il y a vraiment reconnaissable. Il y a vraiment une virtuosité du dessin très particulière. Alors, dans ces histoires, des choses se passent, mais sans qu'on sache vraiment si elles sont liées entre elles. Rien ne peut mieux parler de l'angoisse, à mon sens, que les formes plastiques du mood ring et ce monde infini à la logique jamais cachée. C'est-à-dire que des choses se passent et on pige pas très bien ce qui se passe mais ces personnages avancent et à chaque fois c'est des formes différentes, etc. Alors, la force du travail de Jim Woodring, c'est vraiment de marier cette espèce de beauté fantastique et l'inventivité formelle. Et il mélange tout ça avec de la terreur dans laquelle les situations peuvent à tout moment basculer. Alors, il se trouve que Jim Woodring a utilisé des psychotropes comme catalyseur pour l'écriture. Mais ce serait un peu réducteur de voir son travail comme un délire sous influence. Il y a quand même quelque chose d'un peu plus pertinent que ça dans son boulot. Alors, Fran, qui est donc ce nouveau livre de Jim Woodring, eh bien, c'est le nom d'un personnage. Et ce personnage, Fran, est apparu dans un précédent épisode de Frank. Alors Woodring est assez coutumier du fait, puisque Frank lui-même était issu de Jim, qui était une série qui avait entamé Jim Woodring. Donc il y a une façon de faire une branche à l'intérieur du récit, et donc peut-être que Fran signale le démarrage d'une nouvelle série. Alors, qu'est-ce que ça raconte, cette histoire ? Eh bien, Fran, le livre, donc, débute alors que Fran est devenue la compagne de Frank. Ils habitent ensemble, mais à la suite d'une dispute violente autour d'un appareil bizarre capable de projeter le passé d'une personne si on lui place sur la tête, eh bien Fran, qui a refusé de se soumettre à l'exercice de mettre ce système sur sa tête, eh bien s'ensuit une grosse engueulade et qui mène à une séparation. Alors Franck très rapidement regrette son geste et se lance à la poursuite de Fran qui elle trace sa route à travers le monde typique de Jim Woodring, donc dans lequel des espèces de bizarres monstres viennent l'attaquer, etc. Elle part sans se retourner et finit par s'arrêter dans la maison d'un étrange personnage grimaçant. Alors Fran, on peut le dire, est une histoire métaphorique sur la séparation. Donc on a une histoire d'un couple qui sépare et de tout ce qui vient l'entourer. Il est moins surprenant que les premiers opus. Moi, j'ai découvert le boulot de Woodring il y a quand même un paquet d'années. Et donc le choc esthétique de Woodring est un peu passé. Donc pour la plupart d'entre nous, on a déjà vu ses formes. Et donc le noir et blanc, le côté absolument maîtrisé de son dessin, de cette trame, tout ça, on connaît déjà. Et donc, il y a par ailleurs quelques petits moments de faiblesse plastique. On sent que l'homme vieillit. Et donc, parfois, ça se relâche un peu au niveau du dessin. Mais ça reste quand même du Jim Woodring. Et il semble que ça marque un peu le désir de Woodring d'affronter des récits un peu plus longs et des sentiments un peu plus construits. C'est-à-dire que la gamme de sentiments qu'il essaie d'explorer ici est un poil plus complexe que les scénettes qui nous étaient montrées dans les opus précédents, dans lesquelles on avait des situations très courtes, assez elliptiques, dans lesquelles on n'avait pas le temps de s'installer dans la situation, qu'elle était déjà terminée de manière très très brutale. Du coup, on a d'autres sensations, on a une autre cruauté plus dominée, on y a de la douceur aussi, et des messages plus complexes, comme le renoncement, par exemple, qui fait partie des messages de ce bouquin, et qui sont assez chouettes. Donc on y gagne quelque chose. Et donc, il me semble que Fran est un bouquin assez charnière, et moi je suis personnellement curieux de voir ce que Woodring, le prochain, nous apportera à travers cette série. Ce bouquin assez réjouissant. Moi, je suis vraiment un très grand amoureux du travail de Jim Woodring. Il n'y a pas de couleur dans cet opus-ci, alors qu'il est quand même un espèce de virtuose de la couleur, mais c'est pas grave. Alors, je signale qu'il y a une interview en ligne de Woodring sur le site de Believer, qui est assez intéressant, notamment sur le rapport à l'enfance et toute la partie psychotrope de sa vie, mais bien autre chose. Qu'en avez-vous pensé, mes amis?
Ben, moi, c'est, ça m'évoque, je ne sais pas pourquoi, je sais un peu pourquoi, mais ça m'évoque un peu le travail de Tommy Mustouri, notamment un bouquin qui s'appelle « Sur les pas de Samuel », mais dans cette identité graphique tout à fait reconnaissable, un univers vraiment particulier et en même temps un peu insaisissable. Ça m'évoque comme ça un peu des francs-tireurs de la bande dessinée qui construisent une œuvre un peu sur le long terme, et j'aime plutôt bien voir comme ça des gens qui évoluent et qui construisent comme ça quelque chose. Donc voilà, moi ça m'évoque un peu cet univers-là.
Ok, et bien maintenant nous allons écouter un peu de musique. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé à la technique? Roburang et fils Florian Zev, ça ce sont les musiciens, je précise, hein, parce que merci les gars. Et alors, le titre du morceau, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral?
Dis-moi! Connais-tu l'animal?
Alors, on continue. C'est moi, ce coup-ci, qui vais parler de Julio, de Gilbert Hernandez. Alors, pour les gens qui suivent un peu, Gilbert Hernandez, on en a parlé, je pense, au mois d'octobre, pour La saison des billes, un livre qui nous avait tous plutôt pas mal plu. Et donc, on est de nouveau chez Atrabil. Alors, c'est donc même auteur, même éditeur, même aspect, hein, même maquette. Une BD assez imposante, une centaine de pages, 100 pages même, pour être très précis. Toujours le même dessin, classique, à l'encre, un trait épais, précis, assez doux. Donc ça, on retrouve, voilà, c'est très semblable au niveau de l'aspect à La saison des billes. Par contre, on a un récit tout à fait différent, puisque Julio ne traîne pas comme ça, passe pas des après-midi avec des enfants. C'est plutôt l'histoire d'un homme qui vit 100 ans.
C'est tant mieux qu'il passe pas l'après-midi avec des enfants.
Qui naît en 1900 et qui meurt en 2000. Et donc, on a 100 pages de la vie de ce personnage. Alors, la vie de ce personnage, en fait, plus largement, la vie d'une communauté, d'une famille mexicaine. J'imagine qu'elle vit aux États-Unis, mais c'est même pas tellement précis. Et alors, par quoi ça passe? Eh bien, nous avons les aléas de la vie, le premier jour d'école de Julio. Bon, on commence avec sa naissance, évidemment. Puis on a son premier jour d'école, et puis on a des accidents climatiques, et puis on a la naissance du petit frère, la maladie du voisin, et voilà comment on traverse 100 ans avec D'une part, des histoires de famille, un oncle un peu malveillant dont on saura assez difficilement les motifs. Et puis, derrière, en fond, eh bien, la grande histoire, quoi, les conflits 14-18, 39-45, les années hippies, le sida. Voilà, y a plein de choses qui passent comme ça en arrière-plan. Et alors, comment on raconte tout ça en 100 pages? C'est la question. C'est la spécificité de ce récit, c'est l'ellipse. Hein, donc on tourne une page et on peut aisément sauter une dizaine d'années. Et donc pour moi, c'est un des attraits de ce récit. Peut-être on en discutera après parce que c'est parfois ce qui pêche pour d'autres personnes ici. Un des grands attraits du récit dont on avait déjà parlé pour la saison des billes, et qui est quelque chose que j'admire, c'est son talent à mettre en scène des personnages qui sont extrêmement attachants, sans en dévoiler tellement. Parce que là, ce personnage, Julio, c'est pas du tout un personnage qu'au premier plan, c'est pas du tout un personnage qu'on suit systématiquement. Les personnages s'en vont, viennent, et parfois, Julio, il est en arrière-plan. Mais pourtant, c'est quand même lui qui tient le tout, et finalement il se dévoile peu, et le peu qu'on a de lui est hyper intéressant, parce qu'il est plein de contradictions. Il y a un gros effet de réel, en fait, avec ce récit, puisque tout n'est pas expliqué. On participe à un moment de la vie de cette communauté, comme si on était là, donc on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas forcément de mise en contexte, et puis c'est comme si on revenait 10 ans plus tard, puis c'est comme si on revenait 25 ans plus tard. Et voilà, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, par rapport à ça. Il y a une petite phrase qui me plaît pas mal dans l'introduction, qui est une introduction de Brian Evenson, qui dit, de Hernandez, il accorde à ses sujets une attention qui est à la fois furtive et totale. Et voilà, je trouve que c'est assez vrai. Et puis avec une mention spéciale pour l'introduction et la manière dont le récit se termine, que je trouve super, super émouvant. Et alors on retrouve, je sais pas, il y a des thématiques comme ça chez Hernandez. On retrouve ce... Donc, il y a Julio jeune, c'est un peu de Chavo dans la saison des billes. Hein. C'est toujours ce talent pour faire des gamins que tu trouves trop mignons. Et il y a de nouveau un épisode avec des petits oiseaux, des petits oisillons qui meurent. Donc, je sais pas, il doit y avoir un truc. Mais donc, voilà. J'avoue que c'est pas le gros, gros coup de cœur comme la saison des billes. Mais je trouve quand même que c'est un récit assez puissant. Voilà. Je sais que vous étiez un peu moins emballé.
Ben c'est vrai que la narration est quand même minimale, quoi. Et ce procédé d'ellipse qui l'use et use fait que, en tout cas moi, j'ai eu du mal à rentrer dans le récit d'une part et à m'attacher au récit et au personnage. Ça allait peut-être parfois tellement vite que je comprenais pas toujours ce qui se passait dans l'action et dans le récit. Et aussi, j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire parce qu'au début, je trouve qu'on est un peu perdu. On confond un peu tous les personnages. Ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de vraiment s'arrêter et faire connaissance avec eux. Donc ça, c'est pas toujours facile. Enfin, c'est pas facile d'y entrer pour ça. Et moi, j'avais adoré la saison des billes parce que c'était plus justement... ils s'arrêtaient sur des moments liés à l'enfance. Et ici, c'est vraiment le contrepoint, quoi. Il va à 100 à l'heure pour pouvoir raconter en 100 pages, 100 ans de l'histoire de cette famille. Donc c'est un peu déroutant. Je trouve que ce procédé de l'ellipse, il peut être déroutant. Et voilà, ça ne m'a pas permis de m'attacher à cette histoire-là, en tout cas.
Oui, toutes les qualités de Gilbert Hernandez, mais pourquoi 100 pages, hormis le principe, je ne sais pas si c'est un pari fait ou parce que je pense qu'Atrabile a quand même l'argent encore pour payer des bouquins de plus de 100 pages, enfin je l'espère en tout cas, j'en suis sûr. Donc voilà, je n'ai pas été convaincu non plus par ce dispositif qui n'apporte pas grand-chose, j'ai l'impression.
Mais moi je me demande si ce n'est pas ça qui donne aussi ce sentiment de... pas de futilité, mais qui donne, il cite Beckett et tout, ouais. Cette espèce de valeur de la vie, voilà, qu'on laisse partir, qu'on laisse venir et qu'on laisse partir, et parce qu'il y a pas, c'est assez triste, hein, ça parle pas mal de mort, d'accident, mais il y a pas d'aspect tragique dans ce récit, et donc il y a un côté tranquille en fait qui se dégage de ce récit, et je me demande si c'est pas ce côté spectateur éloigné, cette place qu'il nous donne. Et voilà, qui m'a plu, mais voilà.
Là, il aurait pu faire 120 pages pour mieux travailler certains aspects et on aurait eu le même effet, tu vois, et le même sujet. Et le... Donc voilà.
Probable. Bon. Voilà. Eh bien, Stéphane, non.
Non.
Tu resteras en retrait.
Oui.
Alors, le tournevis d'Olive Bouger.
J'enchaîne. Donc, le tournevis de ce cher Olive Bouger à l'employé du mois. Oula, j'ai du mal à dire employé du mois, ça va mal. Dans la collection 24, alors juste un petit mot de cette collection, puisque ce titre s'y est inscrit. Petite collection que l'employé du mois, éditeur bruxellois, a lancée il y a peut-être, je veux dire 2 ans, mais je dis sans doute n'importe quoi.
Trois déjà.
3 ans. Et au départ, il me semble que c'était pour publier des récits qui étaient arrivés via les 24 heures de la bande dessinée. Et que bon, depuis, ça s'est élargi, je pense, à d'autres récits. Mais donc, c'était ça le point de départ. Alors, Olive Bouger, ce n'est pas un inconnu à l'employé du mois, puisqu'il a déjà publié un livre qui s'appelait I Like Short Songs en 2011. Qui était un récit plutôt sombre, qui racontait l'histoire d'adolescents à la dérive totale. Ici, le tournevis, c'est un récit autobiographique. Et Bouger, en fait, raconte comment il a appris qu'il était atteint d'une maladie qui s'appelle l'algie vasculaire de la face.
Ça sonne presque comme une insulte, hein, quand même.
Exactement, complètement. Donc, il a appris qu'il avait cette maladie qui s'est montré à lui, en tout cas, s'est révélé à lui par de terribles migraines, jusqu'à ce qu'il apprenne que c'était ça. Et donc, le tournevis, le titre, il n'est pas là par hasard. C'est vraiment que quand il a ces crises terribles, il a l'impression qu'on lui enfonce un tournevis dans l'œil, ce qui est assez atroce.
Un tournevis avec un clou
avec rouillé. Avec un clou rouillé au bout, c'est vrai. J'osais pas le dire, je trouvais ça trop trash. Mais c'est vrai qu'il y a le clou rouillé. Et du coup, j'ai perdu le fil. Oui, et quand je dis « on lui enfonce un tournevis dans l'œil », ici, dans le récit, ce serait plutôt la mort. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ce récit, c'est vraiment un dialogue, un espèce d'échange entre Bouger et ce personnage de la mort qui représente vraiment, de façon assez classique, ce bon vieux squelette encapuchonné. Et voilà, c'est donc vraiment ce dialogue-là jusqu'à ce qu'il finisse par apprendre de quoi il souffre et qu'il puisse petit à petit laisser partir en fait cette mort qui vraiment a l'impression, il a vraiment l'impression qu'elle plane totalement autour de lui. Moi, j'ai trouvé que c'était un récit qui tenait extrêmement bien la route. Il est, malgré sa brièveté, puisqu'on a 24 pages, il est extrêmement dense. Il est vraiment bien construit. Et même si le sujet est assez dur, il ne paraît pas joyeux forcément, puisque ça parle de la maladie, de la douleur beaucoup, il arrive à mettre pas mal d'humour et de légèreté, et notamment avec tout ce dialogue qu'il entretient avec la mort, il y a vraiment des scènes, des moments assez drôles, assez amusants. Graphiquement, c'est très très différent de ce qu'il avait fait dans I Like Short Song, qui était un récit en noir et blanc, plus détaillé, quoi, avec un dessin vraiment plus recherché. Ici, c'est son trait est beaucoup plus épais, c'est un dessin nettement plus synthétique.
C'est clairement de la ligne claire, c'est-à-dire qu'il a gardé la même épaisseur de trait sur l'ensemble de son dessin, donc on est vraiment dans une filière post-RG, mais assez bien matinée.
On reconnaît quand même si la technique a changé, on reconnaît instantanément
le style de
la patte Bouger quand même.
Ouais.
Mais du coup, voilà, ça tient aussi au fait que c'est imprimé, c'est vraiment des petites vignettes. On a un gaufrier de 12 cases par page, donc c'est vraiment dense pour le coup. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien avec sa mise en couleur un peu psychédélique, avec des tons un peu acides, mais qui se fondent un peu les uns dans les autres. Parce qu'on voit quand on regarde de près, il y a un petit décalage. À l'impression, les couleurs se fondent un peu les unes dans les autres. Et je crois que c'est quelque chose qu'il a vraiment voulu pour donner cet aspect-là. Et ça fonctionne, ça donne presque un aspect un peu fanzine, mal imprimé.
Oui.
Oui, il a vraiment décalé les couches à l'intérieur de Photoshop pour arriver à cet effet.
C'est un truc un peu fou hein, de faire ça. Mais ça donne super bien. Et je trouve que la mise en couleur est super belle. Et puis, il utilise le gaufrier, justement. Il utilise les cases, il les déforme. Il y a des moments où les cases sont déformées. Au moment où il a justement ces crises terribles qui lui font atrocement mal, au pic de la douleur, comme ses perceptions sont complètement brouillées par cette douleur qui le paralyse, les cases commencent à être complètement déformées. Je trouve que la fin est assez chouette aussi. Puisqu'il y a une petite partie qui est l'adaptation d'un article scientifique qui s'appelle « Les aventures de Flash ». Et ça permet en fait vraiment d'élargir propos vraiment autobiographique, puisque c'est une histoire, c'est une maladie dont il souffre vraiment. Mais il élargit avec cette histoire où il parle aussi des différents traitements et d'un adolescent qui a trouvé que les champignons hallucinogènes en fait soulageaient vraiment les symptômes de l'algie vasculaire de la face. Et puis vraiment la petite touche d'humour à la fin avec le page people où on apprend qu'il y a plein de personnes célèbres en fait qui souffraient ou qui souffrent toujours d'ailleurs de l'AVF. C'est assez amusant et voilà, je trouve que pour un récit de 24 pages, ça tient extrêmement bien la route, c'est très agréable à lire. Et c'est aussi un très joli petit objet, puisque cette collection 24 sont des petits formats agrafés, avec des agrafes rondes apparentes, un très joli papier. Donc, je vous le recommande chaudement.
Moi, je te rejoins tout à fait sur la densité. Et voilà, un récit de 24 pages, on se dit, bon, ça va être peu. En fait, il fait son poids, alors c'est dû aussi au gaufrier, à la densité des dialogues. Et alors, ce qui est assez étonnant et vraiment classe dans ce récit, c'est que donc il décrit une douleur. Bon, c'est de l'autobiographie, mais en même temps, il y a le plaisir de dessiner. Et donc, il y a un plaisir, à décrire et à trouver une manière de dire ça. Et il y arrive super bien, parce qu'en fait, il faut faire preuve de vachement d'imagination, bêtement, pour réussir à parler de ça sans qu'au bout de deux pages, on se dise « Ok, bon, c'est une migraine, ok, il a l'œil défoncé. » Non, c'est hyper bien raconté, voilà. Et voilà, c'est dense, c'est vraiment dense et c'est bien vu.
Il y a ce style particulier qu'on retrouvait aussi dans « I Like Your Song », c'est qu'on a dans « Tournevis », c'est moins un subtil mélange entre donc un côté assez trash, assez brut comme ça, assez dur, et beaucoup de tendresse aussi pour ces personnages. Il y avait déjà ça dans I Like Short Songs. Peu importe les pires situations dans lesquelles ils sont, on va jamais se mettre à en rigoler ou à être à distance. On est toujours en fait très proche d'eux, et c'est lui qui amène ça. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment intéressant, et là on reconnaît sa patte, hormis l'aspect graphique, on reconnaît sa patte dans ce curieux mélange aussi.
Si vous voulez plus de Olive Booger, encore plus, il y a donc c'est un fanzine, l'éditeur c'est Radio As Paper, et c'est des Berlinois, Stéphane ? C'était des Berlinois ? Non, je dis des bêtises.
C'est un Français.
Et alors, c'est un beau petit fanzine, vraiment, qui a une bonne gueule. Et c'est Olive Booger et Joseph Toucan, et ça s'appelle Super Magic Jungle. Je pense qu'ils ont un site, et qu'on peut se procurer ce fanzine par ce biais-là.
En tapant Radio As Paper, on devrait trouver sur le site.
Un bel objet. Voilà, et bien, encore un petit peu de récit avec toi, Stéphane, puisque maintenant, on passe à la rubrique Grand Papier. Donc, les gens qui ont un ordinateur sous les yeux, bien, vous pouvez aller sur le site radiograndpapier.org. Et on va parler de... Enfin, Stéphane va parler de Monique.
Monique, qui est le nom d'une auteure assez discrète, puisque derrière ce simple prénom, il y a une jeune fille ou une femme, on ne sait pas très bien, probablement pas un mec, qui se définit comme juste une petite conne, donc sick. Et sur son site personnel, puisque j'ai essayé d'en savoir un peu plus, j'étais sur son site personnel, spicyfajitas.wordpress.com, elle dit « J'aime les chats ». Donc nous en resterons là pour la biographie. J'ai pas voulu lui envoyer un mail en disant « Nom de Dieu, dis-moi qui tu es, d'où tu sors, etc. » Je vais donc respecter sa demande d'anonymat implicite. Alors, elle a publié son premier récit il y a environ un an sur le Grand Papier. Et quand on dit récit, c'était 163 pages, autobiographique visiblement, enfin c'était écrit comme tel, qui était un récit qui partait un peu de la maison des parents pour arriver jusque la ville, du petit monde fermé de la structure familiale à l'amitié entre femmes, et qui était un récit, alors qu'il était très long, qui était paradoxalement assez elliptique. Donc on avait des sautes, on passait de situation en situation, on se perdait un peu. Il était assez compliqué à suivre parce que il avait cette espèce de petit travers des bandes dessinées autobiographiques, c'est que l'auteur sait très bien de quoi il cause et les sous-entendus, mais pas nous. Paru il y a quelques jours, on va retrouver Bienvenue dans l'appartement 6, qui en fait une actualité, donc il y a quelque chose qui vient de sortir, et qui est un récit qui démarque, c'est la première partie du récit qui est publié là, et avec moult grossièreté, on nous décrit la vie improbable d'une femme de 40 ans, qui a un fils extrêmement mature, trop mature pour être honnête, et cette femme, dès le début du récit, perd son boulot dans la pub, et se voit proposer, à la fin d'une vingtaine de planches, un nouveau travail d'un type dont on ne sait pas très bien s'il veut la sauter ou pas. Alors le ton étrange du dialogue et la brutalité et la rapidité du récit, le côté un peu manga, c'est dessiné vraiment comme une espèce de manga un peu avec un stiff un peu moins précis. Eh bien tout ça donne un récit un peu ovniesque et que j'ai bien envie de continuer à suivre. Donc demoiselle Monique, tu devrais nous continuer ça. Et donc on espère qu'il y aura des rebondissements. Sachez qu'il y a aussi un troisième récit qui s'appelle Louise que je n'évoque pas mais qui est assez étrange lui aussi. Elle est très portée sur les prénoms de femmes.
Elle est, au niveau du dessin, c'est quand même assez virtuose. Hein. On a trois propositions graphiques assez différentes.
Oui.
Ça fait presque, je me plante peut-être, mais ça me fait presque penser à du Bastien Vivès il y a quelques années. Quoi. Un truc un peu je dessine comme je veux.
Oui, c'est ça. Il y a un récit qui est fait au pinceau très très coloré, avec des masses et très peu de traits. Il y a Monique l'appartement numéro 6 qui lui est dessiné avec un stiff ou quelque chose comme ça, un bic, mais qui a un style très très manga. Et donc oui, en effet, on a des choses qui sont très très différenciées dans les propositions et une capacité de travail, puisque un premier récit 163 et puis d'autres récits plutôt longs. Donc quelqu'un qui a de l'ambition. On voudrait en savoir plus.
À suivre. Eh bien, nous sommes dans les temps, c'est magnifique les amis, et nous allons écouter Antoine Loyer, un extrait de son album Poussée anglaise chez Les Disques Bien, c'est pas mal hein, comme nom, Les Disques Bien, 2011, et le titre s'appelle Dans la vieille maison.
Bonjour, c'est Oriane Lassus, vous écoutez Radio Grand Papier.
Ok, on continue. Alors, Tali, une petite rubrique jeunesse. Oui. Ce coup-ci, tu nous as fait une petite sélection pour changer.
Voilà, alors c'est le printemps, il y a plein de nouveautés, les tables des librairies sont pleines à craquer, et du coup j'ai eu envie de faire un petit choix et de vous parler de quelques livres jeunesse. Alors j'ai d'abord choisi un livre pop-up des éditions de Lagrume. Alors Lagrume, on les connaît pour leur catalogue bande dessinée qui existe depuis peu, et ils sont en train de développer vraiment un catalogue jeunesse. Et avec ce livre donc de Vincent Godot qui s'appelle Avec quelques briques, ben je trouve qu'ils font un bon boulot. Donc c'est un très très joli livre pop-up. En fait, c'est l'histoire en deux mots d'un petit garçon qui grandit en mangeant des briques. Et du coup, son corps est vraiment... On va rentrer vraiment à l'intérieur de son corps. Et on se rend compte que son corps est comme un château fort et qu'au milieu de ce château fort, il y a son cœur qui est enfermé là, tout là-bas. Et donc, c'est assez chouette parce que donc on a chaque fois une double page avec un pop-up. Il varie vraiment bien les procédés. Donc, c'est vraiment à chaque page une surprise. Et puis, à ce côté, un peu zoom des zooms, quoi. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur du corps, puis la page d'avant ou d'après, on revient sur l'œil ou à l'extérieur. Donc, c'est vraiment assez chouette. Le texte est extrêmement poétique. Il suit vraiment cette métaphore du corps château fort et ça fonctionne extrêmement bien. C'est vraiment comme un peu comme une mise en volume des émotions, des sentiments. Et je trouve que c'est un très bel objet. Donc c'est un deuxième livre jeunesse pour Lagrume, mais bon, on va dire que c'est presque comme un premier, tellement il est bien. Après, j'ai choisi de vous parler d'un livre qui s'appelle « Cher Bill » d'Alexandra Pichard chez Gallimard, qui est un album jeunesse et qui est assez original puisque c'est un échange de lettres. un échange de lettres entre deux correspondants. Alors, je ne sais pas si vous, quand vous étiez enfant, vous avez correspondu avec des petits camarades de d'autres pays ou d'autres régions du monde. Ici, ben, on a Bill et Oscar qui s'envoient des lettres et ils n'habitent pas du tout au même endroit. Et ils ne sont carrément pas de la même espèce, puisque Oscar est une fourmi et Bill est un poulpe. Alors, ça pourrait paraître un peu rébarbatif au niveau de la mise en page, puisqu'on a toujours donc, une lettre écrite manuscrite et puis un dessin de l'animal qui écrit justement sa lettre dans sa chambre, à sa table. Mais ce qui est amusant, c'est qu'au fur et à mesure des échanges, ces deux amis vont aussi s'envoyer des objets et qu'on va les voir petit à petit prendre place dans le dessin. Alors, Bill, il a trouvé un pot de crème solaire sur le sable, il va l'envoyer à son ami la fourmi et tout d'un coup, dans le décor, on voit apparaître un tube de crème qui fait évidemment trois fois la taille de la fourmi. Donc il y a vraiment tout ce jeu un peu d'échelle qui est très, très 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 charmant. Alors c'est un dessin plutôt élégant, très fin. Elle utilise vraiment bien sa petite palette de couleurs qui est assez minimale. Mais donc voilà, je trouve que c'est un très très chouette bouquin à lire, je dirais, avec un enfant dès 6 ans. Mais ça peut être aussi une première lecture sympa, parce que comme le texte est écrit assez grand, en cursive, ça peut être une bonne première lecture. Voilà. Et puis, je ne pouvais pas ne pas parler de ce livre-ci, qui est un roman illustré pour la jeunesse, qui s'appelle Adam et Thomas, et qui est signé à Aaron Appelfeld. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cet écrivain israélien qui a déjà plus d'une vingtaine de titres à son actif. Et c'est son premier livre jeunesse et c'est vraiment un livre particulier, enfin, qui s'inscrit de façon très particulière dans son œuvre, puisqu'il y raconte un épisode de son enfance, même s'il le transfigure, il le transcende complètement par la fiction. Appelfeld a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale avec sa famille. Il s'est échappé d'un camp d'extermination et il a survécu en errant en fait dans les forêts ukrainiennes alors qu'il avait que 8 ans avant le début de la guerre et de rejoindre Israël bien plus tard. Et en fait ce roman raconte l'histoire d'Adam et Thomas, deux enfants que leur mère a extraits du ghetto pour les amener dans cette forêt pour qu'ils survivent, pour les protéger, et ils vont tenter de survivre par leurs propres moyens. Donc c'est aussi même si le sujet paraît assez grave et assez dur, c'est aussi un vrai roman d'aventure, puisque c'est deux enfants perdus en pleine nature et qui doivent trouver des façons de se nourrir, des façons d'échapper en fait, au bruit qu'ils sentent autour d'eux. Et ils sentent que le ghetto n'est pas loin, que les hommes armés ne sont pas loin. Et tout ça, évidemment, a une pression pour ces deux enfants qui sont quelque part un peu les deux faces de... Du même enfant, en fait. Hein. On sent que Aaron Appelfeld, c'est un peu lui, quoi. Ces deux personnages, c'est un peu lui. Il y a Adam, qui est plutôt justement le petit aventurier qui connaît la forêt, qui sait ce qu'elle peut lui apporter, mais aussi les dangers. Et puis, il y a Thomas, qui est plus le petit intellectuel qui se pose énormément de questions aussi sur l'existence de Dieu, qui est souvent, abordé ici dans ce récit. C'est un texte d'une écriture bouleversante. C'est vraiment, c'est un livre qui, enfin, une écriture qui nous, qui, comme une petite mélodie là, qui rentre très très profondément en nous au fur et à mesure de la lecture. Il y a de très jolies illustrations. Philippe Dumas, qui est un illustrateur qui a déjà publié énormément de livres à l'École des Loisirs, c'est assez classique, mais il y a un petit flou dans ses dessins et ça. Ça colle vraiment bien à cette histoire qui est en fait une sorte de souvenir d'enfance, même si ce récit-ci, il se termine plutôt bien, il faut le signaler, et que c'est un livre qui peut vraiment être lu par des enfants. Bon, moi, je l'ai lu et aussi à la lumière des livres d'Appelfeld que j'ai lus pour adultes, donc ça m'a aussi touchée pour ça, mais c'est un vrai roman pour enfants. Et qui peut justement aussi éveiller des questions et peut-être permettre un dialogue après avec un adulte. Donc je le recommande vraiment particulièrement parce que ça fait longtemps que j'avais plus lu un aussi beau texte. Et donc c'est publié à l'École des Loisirs et c'est admirablement bien traduit par Valérie Zenati, qui est très traduite de l'hébreu et qui est aussi elle-même une auteure et ça se sent vraiment à l'écriture. Voilà.
Magnifique. Et bien maintenant, nous allons écouter un petit quelque chose que nous avons ramené d'Angoulême, puisque fin janvier, nous y étions. Nous avons expliqué ça le mois passé. Et alors, ce coup-ci, c'est une capsule de Yoon-Soon Park. Stéphane, tu vas un peu nous resituer la chose.
Eh bien oui, Yoon-Soon Park a été la traductrice de Histoire d'un couple que nous avions beaucoup aimé ici à Radio Grand Papier. Et donc, une fois qu'on a su que l'auteur de l'histoire d'un couple qui est...
Yoon-Sik Hong.
Yoon-Sik Hong se trouvait à Angoulême. Nous sommes dit, allons essayer d'interviewer et d'approcher cet auteur. Et il était là sur le stand de Ego Comics en train de signer des petits trucs. Et donc on s'est dit, tiens, on va lui parler. Mais bon, il est coréen, il ne parle pas anglais des masses et pas français du tout. Et donc nous sommes tournés vers Yoon-Sik Park pour lui demander de nous faire un petit descriptif. Et donc finalement on l'a embarqué elle toute seule et on lui a dit de demander de nous raconter quelque chose. Et donc l'interview que vous allez entendre, c'est en fait l'interview de Yoon-Sik Park à propos de la traduction d'Histoire d'un couple. Et donc parfois ça dérive un peu sur ce qu'elle en parle. Elle est toute mimi de coréanitude, elle a des petits rires un peu gênés, elle pouffe un peu tout ça, donc c'est très très mignon. Alors par ailleurs, nous allons mettre l'interview de
Yoon-Sik Hong.
Yoon-Sik Hong, que nous avons fait avec elle par la suite. Par après, je suis super en retard cette semaine, l'enfer, donc je ne l'ai pas encore cuté complètement, mais je la déposerai rapidement. Et là, ce sera une interview beaucoup plus longue et impossible quasiment à monter, puisqu'il y a nos questions, l'interprétation par Yoon-Sik Park, la réponse qui revient, sa retraduction, etc. Donc, c'est un espèce de chef-d'œuvre de passage de coréen au français à travers Yoon-Sik Park comme médium. Donc voilà, on peut écouter cette petite capsule assez réjouissante et très mimi.
Bonjour, je suis Yoon-Sik Park, traductrice de Histoire d'un couple par Yoon-Sik Hong chez Ego Comics.
Alors bonjour, alors c'est toi qui as traduit donc ce magnifique bouquin paru chez Ego Comics, dont le nom est
Histoire d'un couple.
C'est un auteur qu'on ne connaît pas du tout ici en France, je crois que c'est sa première traduction. Et qui est-il et d'où vient-il?
Lui, il a fait BD depuis longtemps, presque plus de 20 ans. Mais il n'a pas fait son propre bouquin. En fait, quand il avait 20 ans, il a fait un apprentissage dans un studio de BD pendant 12 ans. Et après, il a fait un concours d'histoire courte en bande dessinée. L'année 92, il avait gagné. Comme ça, il a devenu auteur. Mais après, il a fait que des commandes pour vivre. Et au bout d'un moment, il ne pouvait plus, physiquement, il ne pouvait plus accepter ce travail difficile. Et il s'est arrêté. Et après, il pensait que pourquoi pas mon propre histoire, je vais faire une BD. Comme ça, il a fait ce livre. Et c'est presque son premier album.
En fait, le livre raconte vraiment son histoire et notamment son déménagement en fait de Séoul à la campagne où il va avoir une vie quand même beaucoup plus isolée, beaucoup plus près de la nature. Mais c'est aussi le récit de leur couple, comme le titre l'indique, un récit assez intime. Comment on fait pour traduire quelque chose d'aussi finalement aussi intimiste, aussi sensible, aussi sincère?
Je sais pas comment dire. Ça m'a touché beaucoup. Et même si c'est son histoire personnelle, tu pouvais sentir comment il sent et tous ses stress à cause de travail pour gagner sa vie. On comprend tous très bien. Moi aussi, je fais la BD. Quand on a les commandes, c'est vraiment chiant. Et l'éditeur qui demande les modifications tout le temps, mais c'est absurde. On comprend bien. C'était pas trop difficile. C'est surtout sa femme qui en peut conseiller. Il voulait faire son propre album. Et en même temps, il sentait leur histoire un peu mignon. Alors, tu peux en pas raconter aux gens. Et du coup, sa femme a dit, mais fais-le, on va t'aider. Alors, il l'a fait. Mais il ne veut pas montrer que j'avais autant de difficultés. C'est pas ça. Il est très, très modeste.
Et tu disais que c'était très, très émouvant pour lui?
Ah oui, c'est vrai. Quand il dessinait, au bout de temps en temps, il était tout content de faire son propre projet. Alors, des fois, il a pleuré, il m'a dit. Oui, trop mieux.
Est-ce que toi aussi, tu as pleuré pendant la traduction?
Malheureusement, non. C'est pas malheureusement, non. En fait, traduction, c'est pas la même chose. On voit les défauts de libre. Et on lit plusieurs fois vraiment. C'est un peu comme l'éditeur finalement, j'imagine. Il y a un autre traducteur français, Lucas Mettet. J'explique que tu ne peux pas écrire tout seul en français, je ne suis pas française. J'explique comment ça veut dire. C'est écrit comme ça, mais en fait, ça veut dire comme ça. J'explique tout ça à Lucas, et lui, il a réécrit. Et très souvent, il y avait beaucoup de répétitions, en fait. Et les Français n'aiment pas trop de répétitions. Des fois, on a gardé, mais des fois, c'est trop. Alors, on a un peu enlevé. Des fois, on a changé le taille de bulle même. C'était très, très nécessaire. Puis sinon, on parle très, très long pour dire très courtement. C'est la différence de langage. Alors, on a changé les bulles. Des fois, on a enlevé. Puis, on peut expliquer en bas aussi. Parce que ça n'existe pas ici. Alors, on explique en bas. Ouais.
Oui, bah, tu disais justement que ça, tu te retrouvais aussi quelque part dans ce récit, puisque tu es aussi coréenne. Comme Young-sik, il y a une pression quand même par le travail quoi, en Corée, qui est quelque chose d'assez difficile à gérer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as connu ou que tu as vraiment reconnu aussi dans le livre?
On travaille beaucoup en Corée. Des fois, l'éditeur téléphone 1h du matin pour dire une modification. Ça arrive très souvent. Mais pourquoi j'ai dit ça? Je ne peux pas tout expliquer, la différence de culture. Et des fois, Yen-sik, il sent vraiment responsable de sa famille, c'est-à-dire sa femme. Je pense que c'est un peu bizarre pour vous aussi.
Ce qui est amusant, c'est que finalement, le personnage de sa femme dans l'histoire exerce son métier de façon complètement différente. Elle a l'air de prendre ça de façon plus légère, mais elle arrive quand même à se faire publier. Donc c'est aussi deux visions du métier, non?
Oui, c'est exactement ce qu'il voulait faire, mais lui, il dit, faut pas faire comme ça, faut pas faire comme ça. Mais, il donne beaucoup de conseils, mais elle fait comme elle veut, et finalement, c'est elle qui arrive.
C'est comme une leçon ou qu'est-ce qu'il veut montrer aussi par là?
C'était leur vie, alors il ne veut pas montrer oui. Comment donner les leçons, c'était comme ça. Et j'ai vu sa femme, elle est vraiment très très rigolote, jamais négative, toujours positive, toujours souriant.
Est-ce que le fait de raconter le couple de manière aussi intime est quelque chose qui est facile dans la culture coréenne?
Pas trop, pas trop. C'est étonnant quand même de parler de sa vie en Corée. Il n'y en a pas beaucoup autobiographiques. Des fois, c'est hyper léger. Il y en a les gens qui font autobiographie en Corée. Hein, en Corée. Et des fois, avec un petit personnage hyper mignon en forme de, je ne sais pas, un animal très très léger. Ou comme j'ai fait des bêtises, ah, c'est rigolo, c'est tout.
Comment le livre a été reçu en fait en Corée?
Il a eu un prix. Il y a pas mal de gens qui aiment bien. Oui. Je ne suis plus en Corée. J'ai vu ce livre quand je suis allée en Corée. Ça venait de sortir. Après, ah c'est bien. Je vais proposer aux éditeurs français. Je le connaissais déjà et on avait participé en fanzine collective avant. Je n'étais plus là, mais après il était rentré dedans. Et comme ça, on se connaissait un petit peu, mais on ne s'est pas encore vu. Mais un jour, il m'a envoyé un email en disant que j'en ai marre de la Corée, je veux partir d'ici. Est-ce que la France, c'est bien? Est-ce que je peux y aller avec ma femme et mon enfant? Et maintenant, il a deux enfants. Mais quand il m'a écrit qu'il y avait un enfant, je lui ai déconseillé. Non, ne venez pas, c'est impossible. Et c'est après, quand je suis allée, ça venait de sortir. Je voulais le voir, j'ai acheté et je suis allée chez lui.
Salut, c'est Sébastien Lumineau
et Morvandio. Vous êtes sur Radio Grand Papier. Salut les petits clous.
Ça c'est une référence en Belgique, il ne va pas comprendre.
Et voilà un bon vieux Mazistar, She Hangs Brightly. Et puis, ben voilà, deuxième et dernière partie de l'émission, on va passer à l'interview d'Émile Bravo. Philippe, je te laisse introduire cette interview que vous avez faite avec Thalie.
Voilà, donc on va brièvement introduire ça. Émile Bravo était de passage, en effet, il y a deux ou trois semaines maintenant à Bruxelles, pour dédicacer notamment donc, son tout dernier bouquin, paru au Requin Marteau, Le Jardin d'Émile Bravo, qui est une compilation de courts récits, de strips parfois tout simplement, qui sont parus la plupart dans des magazines, alors aussi bien chez Ferraille que dans le journal de Spirou, que dans la Pastèque, donc des choses plus anciennes et des choses beaucoup plus récentes, et des choses plus abrasives, des choses plus tendres, mais une compilation qui est vraiment pas vaine, quoi, qui est vraiment très chouette, qui est très réussie et qui a du sens. Et donc on l'a rencontré avec Thalie, on l'a interviewé, et du coup par contre dans l'interview on n'évoque pas spécialement ce dernier bouquin, mais on évoque plutôt sa carrière de manière générale, ses débuts, sa passion pour la bande dessinée, et puis toute une série d'autres choses. On parle aussi de sa série Jules, sa série plus orientée jeunesse, et son Spirou, évidemment. Voilà, donc plein de choses dans cette interview avec ce charmant monsieur.
Et puis, nous, on va se dire au revoir, et prochaine émission le 23 avril. Bonne soirée, et bonne interview.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Voilà, bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Ça dépend. L'émission sera plutôt en soirée. Nous n'avons pas Émile Bravo en studio ce 26 mars, mais nous avons eu l'occasion de le rencontrer. Et donc, nous allons avoir un petit entretien là avec lui, avec Thalie de l'équipe. Et donc Émile, comme on fait assez souvent, pour commencer, est-ce que tu peux nous retracer brièvement ou moins brièvement ton parcours, ta formation, comment est-ce que tu en es arrivé là?
Alors bonsoir à tous. Alors ma formation, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai pas du tout une formation artistique parce que à cette époque-là, ça n'existait pas les écoles de bande dessinée, tout ça. Enfin bon, c'était pas une orientation en fait qu'on prenait. Enfin et du coup, moi je m'orientais plutôt vers le technique parce que je pense que c'était pour faire plaisir à mes parents. C'est normal, hein, quand on est adolescent, on n'a pas avancé, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop où aller. Mais je me suis orienté vers le technique, je sais, parce que dans le technique, il y avait du dessin industriel. Et pour moi, c'était déjà du dessin, donc ça me permettait en fait quand même d'utiliser mes mains, quoi, pour dessiner. Et après ça, je me suis rapidement aperçu que, bon, j'étais très ambitieux, hein, je voulais faire une carrière de, enfin, je me souviens qu'au départ, je pensais faire une école d'ingénieur. Et puis, en fait, peu à peu, je me suis aperçu que c'était pas du tout mon domaine. Comme j'en parle justement dans le jardin d'Émile, c'est même un copain qui un jour m'a fait ouvrir les yeux, quoi. Enfin, en me disant, mais quand tu sais pas quoi faire, fais de la bande dessinée, puisque tu t'en fais tout le temps, parce que j'amusais mes camarades avec mes petites histoires en classe. Et j'aimais beaucoup faire ça, les faire rire. Donc voilà, quoi. Et c'est comme ça que j'ai décidé un jour de me lancer dans la bande dessinée. Donc ensuite, je me suis pris une année sabbatique pendant laquelle mes parents m'ont laissé en fait vivre une année. Enfin, je me suis quand même inscrit en fac pour avoir une carte d'étudiant. Et c'était une fac d'histoire de l'art. Et puis, mais en fait, c'était très loin, il fallait aller à Saint-Denis, donc c'était chiant. Donc finalement, je me suis mis à dessiner une bande dessinée, je me suis pris une année comme ça pour dessiner une bande dessinée. Et puis voilà, ensuite je l'ai présenté, bien sûr, ça n'a pas été pris, c'est normal. Enfin bon. Et puis, mais en tout cas, ça m'a encouragé, j'ai jamais lâché le truc, j'ai continué à faire mes petites bandes dessinées, je me suis mis à travailler, j'étais à l'époque maquettiste de presse en fait pendant 2 ans et demi à Marie-France. ça me permettait, je travaillais vraiment à mi-temps, donc de 15 jours je bossais, 15 jours j'étais en congé, mais donc ça me permettait donc de continuer à faire de la bande dessinée. Puis voilà, et puis un jour en même temps, parallèlement à ça, comme je travaillais dans ce magazine, des fois je plaçais en fait des illustrations, et peu à peu comme ça je suis venu à l'illustration. J'avais d'autres amis en fait qui travaillaient dans les magazines et qui m'en commandaient. Puis un beau jour, Je crois que j'avais passé les illustrations dans Lire et en fait, un éditeur, c'était Magic Strip en fait à l'époque. J'avais présenté un projet de bande dessinée et il avait vu en fait les illustrations dans Lire et du coup il m'a dit tout de suite il m'a fait signer un contrat pour cette histoire en fait que je leur présentais. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'était tout ça pour dire que c'est vraiment c'est de l'écriture quoi, comme je dis tout le temps. Donc c'est comme si on se lançait dans une carrière d'écrivain. J'avais des bases en fait de dessin en fait de cette écriture dessinée. Et comme tout le monde a ses bases d'écriture hein, après les années passées à étudier. Et après on se lance, on va voir les éditeurs avec des histoires et puis bah, voilà quoi. On attend la chance quoi d'être publié. Mais en repensant en fait à une carrière, une possible carrière que j'aurais pu avoir en fait si comme aujourd'hui en fait il y avait eu ces institutions en fait qui nous forment à la bande dessinée, je sais pas si ça se serait mieux passé finalement, parce qu'en fait je dis souvent qu'on nous apprend en fait surtout de la technique, une culture de la bande dessinée dans ces écoles. Voilà, encore une fois, il n'y a pas d'école de roman. On nous apprend pas à raconter à inventer, à créer. Ça, c'est ce qu'on a à dire, nous. Et puis, je pense que c'est ce qui est le plus important, en fait, quand on se lance dans ce métier. Je dis ça pour tous ceux qui se lancent dans ce métier. Donc, c'est quelque part, le dessin, bon, c'est important, le dessin. Mais c'est pas primordial. Ce qu'il faut avant tout, c'est avoir envie de raconter quelque chose, de s'exprimer. Et puis, il y en a qui le font avec la peinture, avec le cinéma, avec l'écriture, avec ce qu'on veut. Et voilà, la bande dessinée, c'est une forme comme une autre d'expression, quoi. Et voilà. Et comme je dis, il me semble que j'avais pas pris conscience de ça, que c'était un métier déjà quand j'étais jeune. Parce que ce qui m'intéressait, en fait, quand j'étais avec mes camarades et je dessinais, c'était pas de dessiner, c'était de les amuser. Et je pensais que je voyais pas le lien entre le fait de l'amusement et le boulot. Et pour moi, le dessin, c'était quelque chose d'assez logique pour moi, parce que j'avais une facilité, en fait. C'est une histoire de connexion neuronale, comme ça. Enfin, il y a des gens qui ont des prédispositions à l'écriture, hein, de la même façon. Hein, on a tous connu des gens qui écrivaient très très bien quand on était à l'école. Et moi il se trouvait que j'avais une prédisposition pour le dessin, mais ça s'apprend, le dessin, exactement comme l'écriture s'apprend. Du coup en fait c'était assez logique pour moi de dessiner, donc j'avais pas non plus conscience en fait de ce truc. Enfin oui, je voyais que les gens me disaient ah, tu dessines bien, mais je m'en foutais, c'était pas ça. Ce qui m'intéressait, c'était de faire rire en fait les gens avec mes petites histoires. Et là c'est là où je voyais pas le lien avec un métier, hein, parce que pour moi c'était de l'amusement, c'est vraiment une distraction quoi. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'il a fallu que ce soit les autres. Mais finalement c'est ça qui était important, c'est avoir envie de raconter quelque chose aux autres et de les amuser. Bon, on les amuse, on les amuse pas, mais avoir envie de raconter quelque chose aux autres. Et c'est ça, en fait, je me suis aperçu que c'était ça, la force d'un auteur. C'est ça, surtout, en fait. C'est ce désir de toujours raconter quelque chose ou de détourner. En tout cas, c'est peut-être attirer l'attention vers soi, peut-être. Mais en tout cas, c'est primordial, quoi. Besoin de dire les choses. Voilà. C'est long, hein.
Alors, continuons là-dessus. Donc, en effet, on t'a rencontré dans le cadre de la sortie d'un de tes derniers bouquins, donc Le Jardin d'Émile Bravo. Mais que ce soit dans Le Jardin, dans la série Jules, qui est un peu ta série phare, je pense, ou le Spirou, dont on reparlera un peu plus tard aussi. Alors, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. J'en ai une liste, mais grosso modo, ça parle de l'exploitation de l'homme par l'homme, des dangers du progrès de la science, du racisme ordinaire, de l'eugénisme, du fanatisme religieux. Dans le Spirou, c'est le plus la partition de la Pologne. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont abordées. Tous des thèmes finalement qui mettent en lumière souvent la bêtise et la cruauté humaine. Donc au final, on a une œuvre qui, même si, comme tu le disais, parfois ces thèmes se dissimulent parfois sous l'humour, il y a beaucoup d'humour aussi, mais ces thèmes sont bien présents. Donc une œuvre au final assez engagée. Est-ce que, en lisant tout ça, je me demandais, tiens, est-ce que Émile Bravo a confiance en l'humanité? Est-ce que en lisant souvent aussi dans Jules, comme ça, ce Jules qui se pose beaucoup de questions au travers de tous ses bouquins, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça?
C'est bien, c'est intéressant comme question, on me la pose rarement. Mais en fait, bah oui, j'ai confiance en l'humanité, parce que sinon, je travaillerais pas pour les enfants. Parce que c'est ça, en fait. Contrairement à beaucoup d'autres auteurs, en fait, qui sont focalisés, en fait, sur un discours pour adultes ou adolescents. Moi, j'ai pas oublié mon enfance. Hein, je m'en souviens très, très bien, en fait. Et je me souviens que j'étais pas plus idiot qu'aujourd'hui. Hein, j'étais simplement moins cultivé. Mais sinon, j'avais déjà des problèmes existentiel quand j'étais enfant, enfin je m'apercevais de tout ça, quoi, de notre court passage sur Terre, et que j'ai trouvé toujours, en fait, les gens un peu, enfin, ne pas y réfléchir assez à ça, et je pense que c'est un des problèmes de ce monde, en fait, c'est ne pas relativiser finalement. Et donc, en fait, moi, je passe mon temps, et je me suis dit, bah, la bande dessinée ayant été créée, ce média-là ayant été créé quand même pour l'enfance, il faut quand même pas les oublier, il faut continuer à leur parler, et je pense que moi j'ai tellement appris de choses à travers la bande dessinée grâce à des auteurs comme donc je parle de mon enfance, hein, vraiment, comme Hergé, comme Franquin, voilà, Peyot, Maurice, tout ça, enfin bon, l'école traditionnelle belge, franco-belge, enfin Goscinny aussi, bien sûr, Goscinny m'a appris beaucoup de choses. Pour moi, c'était tellement riche que je me dis, mais non, il faut continuer, en fait, à leur enseigner des choses. C'est des bases, hein, des bases, en fait, de vie, quoi. Et souvent, c'est des choses qu'on nous enseigne pas à l'école, en plus. Moi, je sais que je me suis lancé, en fait, dans Jules, par exemple, dans le premier Jules, c'est un Jules qui parle de la relativité. Parce que cette histoire de relativité, moi, on me l'a raconté quand j'avais 10 ans. Et je trouvais ça génial. Et c'était pour une, pour la première fois, il y avait un adulte qui me parlait d'un truc qui commençait à répondre, en fait, à mes questionnements existentiels. Parce qu'en fait, tout était relatif. Et là, finalement, je me disais, je fais partie d'un tout dans cet univers, et où finalement, on peut se fier à rien, même pas au temps. Et ça, c'était génial. Je me disais, mais pourquoi on nous apprend pas ça à l'école? Et ça me révoltait. Donc c'est pour ça que bien après, quand j'ai eu l'occasion, en fait, de faire de la bande dessinée, notamment de la bande dessinée pour les enfants, je me dis, mais c'est ça qu'il faut leur raconter. Et tout ça, ça nous aide, en fait, à se connaître, à nous comprendre, et à partir de là, à nous supporter, et à trouver les solutions pour sortir, en fait, de ce bordel dans lequel, en fait, on est, parce que c'est le bordel de l'être humain, c'est juste parce qu'il a un tournant, hein. On est des animaux, on est juste des animaux avec un cerveau, on sait pas trop quoi en faire de cerveau, toute cette réflexion, tous nos problèmes, ils viennent de là, c'est juste un problème, c'est des problèmes liés à la mort, un problème existentiel, c'est que même inconsciemment, même si les gens ne sont pas vraiment, comme je disais tout à l'heure, vraiment conscients, oui, quelque part, en fait, inconsciemment, ils y pensent, et c'est un problème d'ego, oui, tout le monde veut vivre, tout le monde veut exister, et on fait ça n'importe comment, quoi, c'est tout le temps moi, donc c'est ça qu'il faut arriver à canaliser et à brider, je pense, chez l'être humain, et si à travers des petites histoires, en fait, ces petites histoires, je prétends pas, en fait, de révéler les gens, mais au moins apporter une petite pierre pour qu'un enfant comprenne un petit peu mieux le monde dans lequel il vit, et puis qu'il se fasse ses armes, parce que c'est ça, en fait, mieux on connaît le monde, mieux on peut s'en défendre, et mieux on peut le sortir de là aussi. Mais moi, j'ai pas le choix, j'ai intérêt à avoir confiance en l'homme, puisque j'en suis un, et je sais que dans le fond, je suis pas mauvais, c'est ça, et à partir de là, peut-être que je sais que j'aspire à un truc, je crois en l'humanité, parce que je me dis c'est quand même fantastique, en fait, d'arriver à réfléchir à tout ça, enfin, à prendre conscience de l'univers dans lequel on vit. Moi, je suis content de vivre à notre époque, malgré tout ce qu'on dit, parce qu'il y a un certain savoir, quoi. On arrive déjà, à se connaître au niveau atomique, quoi. C'est déjà énorme. Ça répond à beaucoup de questions, en fait, qui étaient des questions insondables quand il y a quelques siècles, mais même il y a quelques années. C'est pour ça qu'il y a les religions, c'est pour ça qu'on a inventé, en fait, n'importe quoi pour expliquer tous les phénomènes qui étaient incompris. Et je me dis, il y a eu quand même un grand chemin, enfin, on a bien avancé, quoi, depuis, on se comprend de mieux en mieux, on comprend un petit peu, de mieux en mieux, en fait, tout ce qui nous entoure, l'univers. Et à partir de là, c'est quand même chouette d'exister, même si c'est court, c'est terrible, hein. Moi, je trouve ça très, hyper injuste de passer son temps à vieillir, finalement, et à se préparer à la mort. La vie est trop courte, mais en tout cas, c'est quand même chouette, quoi. Enfin, voilà. Donc, je crois en l'homme.
Et c'est ce que tu dis aux enfants aussi dans la série des Jules. Je voulais revenir un peu sur cette série qui, pour moi, est une série assez unique en son genre pour la jeunesse, et qui est sans doute arrivée à un moment où, dans la production éditoriale, il n'y avait pas grand-chose, en fait, à destination vraiment des enfants. Toi, tu as vraiment pensé cette série pour eux. Quand tu l'as écrite, c'était vraiment en disant, oui. Je vais m'adresser à ce public-là pour lequel, finalement, on n'écrit pas vraiment les BD, quoi. Je veux dire, les BD, tu parlais des classiques, Hergé... Franquin, est-ce qu'il s'adressait aux enfants? Pas vraiment. Enfin, moi, j'ai pas vraiment l'impression que c'est pour eux qu'ils écrivaient leurs histoires.
Bah, si, quand même. Enfin, moi, encore une fois, comme je disais, moi, Hergé, il m'a apporté beaucoup. Il m'a fait découvrir, en fait, un certain humanisme. Et puis le monde aussi, parce que à cette époque-là, bon, il n'y avait pas encore toutes les... Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes les chaînes de télé, en fait, qui nous font voyager et tout. Donc, il apportait de l'exotisme et pas mal d'humanisme aussi, même s'il y avait un côté vraiment bien pensant. Mais bon, quand même, quoi. Enfin, ça s'adressait... Enfin, ce qu'on peut leur reconnaître, que ce soit Franquin ou Hergé, c'est quand même aussi multigénérationnel. En fait, comme lecture, et ça, moi, ça, ils me l'ont appris, et ça, c'est génial de pouvoir partager un livre avec son père qui rit, pas forcément au même moment où nous on rit, et c'est là où c'est génial d'ailleurs, parce que ça crée un mystère, et on se dit pourquoi il a rigolé là, et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est, et quand on lui demande, bon, tu verras plus tard, tu comprendras, ce genre de choses, oh, c'est génial, il y a un trésor là-dedans, et puis en plus de ça, il y a le côté partager le rire aussi dans certaines scènes, puis des lectures. Enfin, moi j'avais mon degré de compréhension. Des fois, je voyais juste Milou, je sais pas, qui se faisait éclabousser, et ça me faisait mourir de rire. Et mon père moins, mais voilà. Et moi, je trouvais ça génial, en fait, ce partage familial. Et ça nous donne encore. Ça aussi, ça nous donne confiance en soi, quoi. En nous, en fait, on se dit, juste, je partage quelque chose qu'un adulte qui plaît aussi avec un adulte. Donc, ça nous donne de la force, quoi. Pour avancer, on n'a pas l'impression, on n'est pas infantilisé dans ces cas-là, donc, et c'est ça que je trouve la grande richesse, en fait, de la bande dessinée. C'est très difficile à faire qu'autre chose que de la bande dessinée avec un texte, c'est pas la même lecture, parce que la lecture graphique, chacun y trouve son petit compte, chacun regarde l'image qu'il veut. Au cinéma, c'est pareil, ça va trop vite. Au cinéma, on peut pas s'arrêter sur des scènes en se disant, regardez, là il s'est passé quelque chose, là derrière, en arrière-plan, ou peu importe, ou alors, enfin, et à partager, c'est pas possible, quoi. On peut pas commenter un film, quoi. Alors qu'une bande dessinée, même si on la lit, on peut un petit peu commenter, en fait, les images, tout ça. Moi, je trouve ça énorme, quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est une richesse. C'est pas du tout un truc puéril, la bande dessinée. C'est un truc vraiment formateur, moi. Je trouve que l'image et le texte et l'image, c'est pas rien de savoir lire une image. C'est aussi fort que de savoir lire un texte. Et ça s'apprend aussi. Et moi, je dis souvent que les gens qui disent, moi, je ne lis pas de bande dessinée, je suis un peu triste pour eux, parce que on sent que derrière ça, il y a une espèce de, une condescendance, quoi, en disant, oui, un petit jugement, en disant, mes pauvres. Et alors que moi, c'est le contraire. Moi, je vois ça différemment. Je vois quelqu'un, en fait, c'est comme quelqu'un me dirait, moi, je sais pas lire et écrire, ça sert à rien. Moi, c'est de l'ignorance pure, quoi, de dire ça. Et bon, voilà, quoi. Et comme il faut apprendre à lire les images aussi aux êtres humains, puisque d'ailleurs, en plus d'ailleurs, c'est notre première écriture. Bon, ça, on en reparlera peut-être si on a le temps.
Alors, on parlait justement d'Hergé et de Franquin. Il y a dans Le Jardin, mais dans Jules, comme ça, j'ai noté figure tutélaire, j'étais très content de ce mot, alors je dois le repasser, qui apparaissent clairement ou qui apparaissent de manière un peu plus dans le Jules. Je me souviens notamment d'une sorte de personnage qui râle un peu dans l'Eurostar. En fait, on s'aperçoit plus tard que c'est un Tintin vieillissant. Dans Le Jardin, il y a un Gaston aussi qui a ouvert sa propre boîte et tout ça. J'ai l'impression, il y a Gustave Doré aussi dans Le Jardin, dont on parle peu, mais on en a parlé il y a pas longtemps. Un de ses bouquins, c'est un des pères fondateurs de la bande dessinée contemporaine. Donc, c'est ces figures comme ça qui sont là. Alors, moi, j'ai l'impression... On va sans doute parler d'influence, mais j'avais l'impression aussi que parfois, c'était comme se mettre un peu sous leur protection. J'avais l'impression que c'est comme si tu invoquais un peu une forme d'héritage. Et donc, ça, c'était la question par rapport à ça. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais citer aussi peut-être plus comme auteurs plus contemporains qui t'ont influencé, donc à la fois des influences plus dans le passé, et est-ce que maintenant, ou je veux dire dans une bande dessinée plus récente, il y a des personnages, des auteurs qui t'ont influencé?
Bon, alors déjà, j'en parlais, hein, j'étais influencé par toute cette école franco-belge, en fait, classique, quoi. Et quand j'en parle dans mes histoires, c'est des petits clins d'œil, je m'amuse un peu avec eux, quoi. Enfin, moi, je pense que ça leur est pas, enfin, pour moi, il n'y a pas de côté iconoclaste, c'est pas pour faire de la provo, c'est pas ça du tout, c'est plutôt pour m'amuser avec le lecteur aussi, qui a connu, en fait, ces héros-là, et puis voilà, c'est vraiment une forme de clin d'œil, comme j'ai fait avec Spirou, avec justement avec Tintin, où je joue avec Tintin, où mon Spirou existe réellement, et Tintin c'est un personnage de bande dessinée, et à partir de là on peut créer en fait des petits, c'est des hommages en fait, mais en riant, enfin, il faut pas se prendre, je me prends pas au sérieux, donc à partir de là ça peut être que des hommages faits avec le sourire, quoi. Donc
dans le jardin il y a un Schwartz et Tottenheimer qui sont particulièrement pas piqués des verres, ils sont des voilà, on vous laissera découvrir ça, mais c'est drôle.
Oui, c'est parce qu'en fait là c'est j'imaginais que les personnages de Jacobs, qu'en fait Jacobs s'est piqué l'idée à Hitler en fait, qui avait créé en fait les personnages de Schwartz et Tottenheimer, qui sont en fait un officier SS et un docteur SS aussi, et tout ça, j'imaginais qu'en fait c'était ça, la première BD de Hitler, et que c'était pour ça en fait qu'il n'avait pas été admis à l'école des Beaux-Arts à Vienne, parce qu'ils n'aimaient pas la BD, et c'est pour ça que ça a foutu le bordel dans le monde. J'aime bien penser que la BD c'est le centre du monde, qui déclenche le fait de repousser la bande dessinée, ça déclenche des catastrophes en fait, inimaginables. Donc oui, bon, sinon oui, bah, j'ai eu mes influences, bah, et voilà quoi, c'est tous ces gens qui me parlaient quand j'étais enfant, et qui parlaient aussi, encore une fois, il y avait ces deux différents degrés de lecture qui parlaient en même temps aux adultes, j'avais besoin de ça. Au plus loin que je cherche, j'ai jamais lu de bande dessinée exclusivement pour enfants. Vraiment, ça me dit rien. Je me souviens tout petit, j'aimais bien Popeye, par exemple. Mais mon père, ça le dérangeait pas de me lire un Popeye, il me semble. Voilà, enfin, il y avait pas de trucs vraiment réservés aux enfants. J'avais besoin de sentir que c'était des gens déjà responsables. Parce que peut-être, c'était peut-être dû au fait que mes parents étaient âgés, donc je sais pas, peut-être qu'il fallait que je fasse ma formation d'adulte en accéléré, je sais pas trop. Donc voilà, et puis pour les plus contemporains, pendant l'adolescence, il y a quelqu'un en fait, moi je sais que j'ai été très influencé par Hugo Pratt, mais Pratt parce que pendant l'adolescence, parce que c'est là où je me suis aperçu qu'on pouvait être vraiment on pouvait être vraiment un écrivain. Enfin, pour moi, Pratt, c'est un romancier, quoi. Je le compare souvent à Kessel. J'aimais beaucoup quand j'étais adolescent Kessel, et quand je lisais Pratt, c'était la même chose. C'était des récits d'aventure comme ça. Ça sentait le grand large. Ça sentait, je sais pas, il y avait beaucoup en plus avec vraiment une espèce de candeur, puis aussi un romantisme. Je me disais, voilà, on peut raconter des choses très très fortes en bande dessinée. Donc c'était pas simplement que voilà du gag, ça m'a renforcé dans l'idée que c'était un super moyen d'expression, quoi. On pouvait vraiment raconter des choses vraiment profondes. Et puis après il y a eu moi, ce qui m'a vraiment en fait persuadé de ça, c'est de lire Mouse. Ça a été vraiment un tournant dans ma vie, parce que je me suis dit voilà, traiter la Shoah avec le dessin comme il l'a fait, ça c'est très spécifique à la bande dessinée. C'est impossible de faire ça au cinéma. C'est pas possible de faire ce qu'il a fait en littérature. C'est pas possible, parce qu'il y a certaines images en fait qui sont indescriptibles et qui. Alors déjà le fait de traduire ça en zoomorphisant les personnages, ça c'est là où en fait même un enfant peut lire cette histoire, parce qu'il voit bien en fait un chat, une souris, il voit très bien en fait quels sont les rapports entre les deux, et puis finalement ça nous permet en fait ça lui a permis de faire des images en fait qui sont ultra fortes, mais qui n'auraient pas été possibles si avec un trait réaliste. Par exemple, quand on fait un charnier de rat qui brûle, c'est une image tellement terrifiante qu'on se dit non, ça, ni avec des mots on n'aurait pas pu décrire ça, ni avec un dessin, ni en film bien sûr, ni en dessin réaliste, ça devient obscène, quoi. Et là, avec un graphisme, c'est à nous, c'est quand on voit en fait que le cerveau est obligé d'interpréter en fait ce qui se passe dans l'image, et là c'est encore plus terrifiant. Et c'est ça la bande dessinée en fait, c'est à travers une image on doit créer en fait, on a encore beaucoup de choses à inventer. Il y a beaucoup de gens qui disent la bande dessinée, j'aime pas trop ça parce que on me décrit, tout est dessiné, donc voilà, j'ai plus à inventer. C'est pas vrai en fait. Bon, ceci dit, c'est vrai, il vaut mieux avoir un dessin simple dans le sens beaucoup plus schématique, schématique, on va dire, pour que le cerveau continue à travailler, à s'imaginer en fait la réalité. C'est pour ça que moi j'aime bien en fait tout ce qui est très épuré. J'aime pas trop le dessin quand il est trop réaliste. C'est vrai que ça me gêne, ça me mâche trop le travail. Et puis voilà. Mais effectivement, quand on lit ce genre de dessin, il y a encore toute l'imagination qui travaille. Puis en plus, toute l'imagination qui fait vivre tout ça, qui anime tout ça. Donc pour en revenir à Art Spiegelman, c'est hyper fort ce qu'il a fait. Moi je me souviens, là tout à l'heure, je comparais Pratt à Kessel, et moi je compare souvent Art Spiegelman à Primo Levi, en fait, c'est énorme. Donc voilà, quand je vois ça, je me dis, voilà, alors là, la bande dessinée, on peut raconter, on peut même aller au-delà, en fait, de ce qu'on peut dire, en fait, avec des mots. Et ça, c'est là où on doit s'apercevoir vraiment de l'avantage, en fait, de cette écriture. Voilà, et encore une fois, et ça s'adresse à tout le monde, c'est pourtant très très fort, en fait, ce qu'il dit. Et un enfant peut le lire à cause de ces images qui sont accessibles. Ce sont des souris et des chats. Et ça, c'est fou. Il y a qu'en bande dessinée qu'on fait ça. C'est fantastique. Et après, il y a aussi, moi, ce que je trouve que Marjane Satrapi a fait un truc fantastique aussi. Parce qu'elle, elle a montré qu'on peut sortir vraiment de l'académisme. Elle s'est mise à raconter son histoire, et là aussi c'est une histoire, en fait, qui parle aux enfants, parce que c'est au départ l'histoire d'une petite fille. C'est une histoire, en fait, sur l'adolescence, sur la construction de soi, et ça, c'est énorme. Et elle le fait avec le dessin, et en partant d'une enfant. Donc à partir de là, une enfant peut suivre vraiment le chemin d'une vie, enfin d'une adolescence, enfin du passage de l'enfance à l'adolescence et au monde adulte, et à travers, en fait, l'histoire de son pays, on sent bien qu'en fait on est porté par l'histoire, on fait partie d'un tout. Et en plus, elle l'a fait avec des moyens, je parle, en fait, des moyens même techniques, qui sont d'une simplicité extrême. Et c'est là où, en fait, on sort de tous les codes de bande dessinée. En général, quand on parle de bande dessinée, les gens sont là, ah ouais, il faut savoir dessiner, ah ouais, il faut être virtuose, il faut faire plein de trucs. Elle est virtuose, mais dans le sens de sa simplicité. Elle sait faire de la synthèse d'un dessin, et avec quelques traits, en fait, elle exprime tout, et elle raconte une histoire très très forte. Et ça, c'est une super leçon, je trouve, pour nous, pour toutes les sociétés qui ont développé la bande dessinée, parce que c'est devenu une sorte de corporatisme où on pense que il faut vraiment avoir une technique pour... Mais effectivement, la technique, elle vient comme quand on écrit. À force d'écrire, on a une technique. Mais le support lui-même peut être simple, très très simple et très épuré pour parler de choses fortes. Et ça, je trouvais que c'est une super leçon par rapport à toutes ces sociétés qui baignent dans la bande dessinée, parce que ça nous fait prendre du recul. Elle, venant d'Iran, n'ayant pas du tout grandi dans la bande dessinée, elle n'a pas du tout de culture de bande dessinée, arrivée avec ses petits dessins, qui rappellent la miniature orientale, en fait, c'est simplement ça. Et avec ça, raconter une histoire forte comme elle l'a fait, c'est fantastique. C'est une super leçon, quoi. Et moi, je trouve qu'avec ce genre d'œuvre, ça fait avancer vraiment le média. Et ça l'ouvre surtout à tout le monde. Parce que peu à peu, les gens se disent, bah oui, mais c'est pas si compliqué que ça, finalement. Oui, si, ça, il faut pas croire que c'est simple. Mais en tout cas, ça laisse beaucoup plus d'ouverture aux gens. Pour venir dans ce milieu.
Non. Tu parlais du style de Marjane Satrapi ou du style d'autres auteurs. C'est peut-être l'occasion de parler de ton dessin, qui est un dessin vraiment très ligne claire, très élégant, très...
C'est gentil.
C'est vrai. Mais et en même temps très simple. Enfin, on comprend très 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 bien ce que tu veux dire avec ton dessin. Et je voulais que tu nous parles un peu de ça, parce que je sais que le dessin pour toi c'est aussi il est là pour servir le propos, pour servir l'histoire principalement.
Bah oui, mais c'est ça avant tout. Le dessin doit servir à, il nous sert. C'est comme l'écriture, il sert à raconter une histoire. Donc en fait, il faut pas s'étaler, il faut pas montrer un petit peu, il faut pas passer son temps à montrer sa virtuosité. Il faut aller au plus simple et au plus compréhensible. Il faut qu'il devienne. Moi, j'adore. Enfin, j'ai utilisé le terme de. Il faut qu'il soit accessible. C'est ce que je demande à un dessin. Moi, quand un dessin est trop compliqué, comme je disais tout à l'heure, je me perds en fait dans la lecture du dessin, et je compare souvent l'écriture. Je dis, un dessin trop compliqué, c'est comme un texte pompeux. On est là, on fait des descriptions pendant des pages, et on se dit, allez, allons-y, j'ai compris, allons-y, venons-en au fait, allons-y, continuons l'histoire. Et je pense qu'un dessin trop complexe, nuit à la lisibilité et à la fluidité, en fait, de l'histoire. Et encore une fois, je ne pense pas, en fait, en disant ça, aux gens qui aiment le dessin pur, hein, qui peuvent s'attarder, en fait, des heures sur un dessin. Je parle aux gens qui ne lisent pas de dessin, qui ne savent pas lire un dessin et qui veulent lire une histoire. Il faut pas les parasiter avec beaucoup de choses. Il faut aller à l'essentiel et voilà, quoi. Et donc, moi, je trouve que quand le dessin devient une écriture, c'est là où, en fait, c'est vraiment de la bande dessinée. Le reste, c'est souvent... Moi, il y a une grosse production de bande dessinée, ce qu'on appelle la bande dessinée, mais ce n'est pas de la bande dessinée, c'est un dessin accompagné d'un texte. Et souvent, il n'y a pas d'osmose, il ne se passe rien. On a, d'ailleurs, souvent, c'est des binômes qui ne marchent pas, c'est les éditeurs, souvent, qui prennent un dessinateur et un scénariste, quelqu'un qui écrit, ils les mettent ensemble et ils veulent que ça fasse une bande dessinée. Mais ça ne marche pas du tout comme ça. On en a un qui s'efforce à montrer qu'il sait écrire et l'autre qui s'efforce à montrer qu'il sait dessiner. Et on sent la lutte des égos. Et puis ça fonctionne pas, quoi, souvent. Ils ont pas encore compris que c'est l'écriture en bande dessinée, c'est de l'écriture dessinée, et que ça va de soi, quoi. Goscinny, quand il écrivait ses scénars, au début, hein, qu'après il est tapé à la machine, mais au début, c'était vraiment parce qu'il étudiait, qu'il comprenait bien son esprit, mais au début, tous ses scénars, c'est des petits totos, quoi. Il voyait comment ça se passait de façon dessinée, quoi. Puis après, il y en a beaucoup d'autres. Bah, c'est des auteurs. On appelle ça des auteurs complets, mais c'est pas des auteurs complets. C'est des auteurs de bande dessinée. C'est l'écriture de bande dessinée des gens comme Hergé, Franquin, enfin, qui écrivent leur propre scénario. Moi, ça me paraît assez logique. On ne fait pas de la bande dessinée pour dessiner. On fait de la bande dessinée pour raconter des histoires. Et puis, comme on dit, tout bêtement, un super scénario. Je vais commencer par l'inverse. Un très mauvais scénario avec un très beau dessin, ça restera une histoire de merde. Alors que l'inverse, une très bonne histoire avec un dessin maladroit, ce sera une bonne histoire. Et c'est tout. Je vois pas ce qu'on va chercher au-delà de ça, quoi. Mais le dessin fascine tellement qu'on arrive à faire croire à un public que ce qui est important, en fait, en bande dessinée, c'est le dessin. Et d'ailleurs, c'est ça c'est le problème du ghetto, du lectorat de la bande dessinée. C'est pour ça qu'on n'en sort pas de ces, je sais pas combien ils sont, 400, 600 000 lecteurs, qui ne lisent que de la bande dessinée, qui s'intéressent simplement au dessin, parce qu'ils ont une certaine lecture de dessin. Mais c'est pour ça qu'en fait, ça se ghettoise et ça ne s'ouvre pas au reste du public, parce que ce sont des dessins déjà trop complexes. Qui ne parle pas, enfin, à des gens qui ne savent pas lire un dessin, il me semble. Donc voilà, il faut sortir de ce ghetto et montrer simplement que ce qui est avant tout important, c'est l'histoire, quoi. Voilà.
Et tu es l'auteur de la plupart de ces livres, mais il t'est arrivé de collaborer aussi avec d'autres auteurs, comme sur Ma maman est en Amérique avec Jean Regnault, et aussi plus récemment avec Fred Bernard sur l'album Jeunesse, On nous a coupé les ailes, chez Albin Michel. Et là, donc, c'est aussi mettre ton dessin au service de l'histoire de quelqu'un d'autre. Comment tu travailles autrement sur ces projets ou...
Oui, alors déjà, c'est des amis. On se connaît depuis... Enfin, en ce qui concerne Jean Regnault, c'est un ami d'enfance, en fait. Et il se trouve qu'on a le même humour. Alors, moi, quand j'ai travaillé avec lui, avec Alexis Strogonoff, on faisait les scénarios ensemble. Et là, c'était aussi une méthode de travail qui était très drôle, parce que ça consistait justement à se raconter des histoires, à étonner qui étonnera le plus l'autre. Et on avançait comme ça. Et c'est très stimulant, quoi, de travailler à deux sur une histoire. Sauf pour ma maman, où là, vraiment, il a fait un texte, il est arrivé un jour avec son manuscrit, et en fait, il parle de sa vie. C'est un Jean est quelqu'un d'assez. Enfin, moi, je savais qu'il avait perdu sa maman quand il était petit, bien sûr, mais je ne savais pas dans quelles circonstances il avait appris la mort de sa mère. Et à partir de là, quand il m'a apporté ce texte, j'ai été super ému parce que c'était vraiment quelque chose d'hyper ultra personnel. Et quand il m'a demandé, bien sûr, de l'illustrer, moi, le connaissant depuis toujours et connaissant tous les personnages en fait qui sont là jusqu'à sa nounou, je la connais. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais le faire, quoi. Je vais l'illustrer, je vais l'adapter en bande dessinée. Ça me paraissait logique, quoi. Donc dans ces cas-là, oui, c'est normal de travailler. On peut travailler en collaboration avec d'autres auteurs, avec des gens qui écrivent. Et pour Fred Bernard, c'est pareil. Il est arrivé avec un texte, mais après on l'a remanié un petit peu. On a travaillé ensemble. Bien sûr, on peut travailler à deux. On peut. Ce sont d'autres projets, quoi. Mais dans lesquels on s'investit de la même façon. Et surtout, moi, si je l'ai fait, c'est parce que je trouvais le texte intéressant. C'est ça, avant tout, quoi. Mais voilà, quoi. Mais c'est un autre exercice. On peut aussi être effectivement l'illustrateur d'un livre. C'est simplement donner de soi, en fait. Voilà, mettre ça en forme pour que ça de traduire, en fait. Voilà, c'est une adaptation en dessin, en fait, d'un texte. Et encore une fois, l'illustration, faut pas non plus illustrer simplement le texte. À mon avis, il faut apporter quelque chose en plus, quoi. Une autre lecture aussi à travers le dessin qu'on fait à côté. C'est ça pour moi les bonnes illustrations. Si on a le texte et en plus de ça, Il y a le dessin qui est à côté, en fait, raconte encore quelque chose. C'est ce que faisait Sempé, par exemple, quand il travaillait avec Goscinny. On a le texte de Goscinny, et à côté de ça, on a les dessins de Sempé. Il se passe encore d'autres choses, en fait, dans les dessins de Sempé. Et ça aussi, ça m'a... Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, je trouvais ça génial, en fait, d'avoir deux lectures, en fait, écrites et dessinées.
Finalement, on parle de plein de bouquins, mais tu es un auteur... assez rare finalement. Alors j'ai l'impression, je dis pas que tu fais rien, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de, oui, j'ai l'impression que si tu fais des apparitions comme ça, il y a souvent un laps de temps. Et alors t'as publié aussi à la fois chez les grands éditeurs, mais chez des plus petits. Ici avec Le Jardin, on se retrouve au Requin Marteau, mais il y a des bouquins qui ont été faits chez les plus grands éditeurs aussi. Et justement, cet aspect rare, moi, j'ai l'impression que ça donne une forme de liberté de ton et de création aussi. J'ai l'impression que ce que tu fais, tout ça est assez libre. Et il y a une des dernières histoires... dans le jardin, c'est cette anecdote, mais qui est basée sur une histoire vraie. Enfin, c'est où tu rencontres un éditeur et où très vite ça parle plus de produits que vraiment de bouquins. Moi, j'ai l'impression, en effet, qu'Émile Bravo, c'est une sorte d'électron libre comme ça. Est-ce que...
Oui. Non, mais oui, je suis d'accord. D'ailleurs, justement, ce discours me paraissait tellement éloigné de ma vision des choses que j'ai l'impression qu'il n'a jamais... il ne s'est pas appliqué à mon œuvre, en fait. Le marketing ne s'applique pas à mon œuvre. Un commercial ne sait pas vendre mes albums. C'est vrai, mais il le disait dès le départ. Moi, je me souviens, je me révoltais des fois parce que je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que... Au début de Jules, ça c'est... En fait, c'est Jules, par exemple, ça... Au départ, c'était vraiment confidentiel, hein. Les ventes de Jules, c'était pas grand chose. Et pourtant, ça passait dans Okapi. C'est ce qui m'énervait. Je disais, mais ça passe dans Okapi. Il y a vraiment une lisibilité. Il y a des gens, il y a des enfants qui lisent ça. Et pourquoi on n'en vend pas? Pourquoi vous en vendez pas? Et c'est là où, en fait, on m'a envoyé le type du marketing qui m'expliquait que, bon, ben voilà, il avait un plan de stratégie, mais il n'a pas fonctionné. Alors après, on m'expliquait, je me souviens, il m'avait dit, mais on sait pas vendre tes livres. Parce qu'il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse pas à un public précis. Et nous, on est formés pour faire des plans, des cibles avec des cibles. Et ben, ta cible, c'est tout le monde. Et ça, on sait pas faire. Et le seul truc, c'était, il me disait, le seul truc, c'est le temps. Il faut attendre pour que ça fonctionne. Et bon, bah voilà quoi. Et c'est là où on se dit, bon, bah oui, bah, prenons notre mal en patience. Et à partir de là, bah, je crois que ce qui est important, c'est quand je fais en fait quand je crée une histoire, bah, quelque part, c'est parce que j'ai besoin de la créer, parce qu'elle doit sortir. Hein. C'est pas simplement parce que j'ai envie d'amuser les gens, c'est parce que j'ai un thème qui me tient à cœur et j'ai envie d'en parler. Et puis après, voilà, c'est à disposition. Puis les gens, ce que je veux dire, c'est que je suis pas un auteur à la mode. D'ailleurs, j'ai un dessin super désuet depuis toujours. Je cherche pas non plus à faire parler de moi, à être présent dans les médias. Je m'en fous. Je suis quelqu'un de très discret. Et c'est tant mieux comme ça. Je vis ma vie, c'est super. Voilà. Et donc à partir de là, il me semble que mes livres sont là, existent, et puis le public, ben, c'est lui qui dispose, en fait, de ça. Et ça, c'est important de savoir que, finalement, moi, je suis là simplement pour avoir un point de vue, oui, mon point de vue d'auteur, mais c'est surtout, en fait, c'est le public qui m'a fait, en fait, mais peu à peu. Je dis souvent que c'est les bibliothécaires et les libraires, en fait, qui m'ont fait connaître plus que le marketing, tout ça. C'est vraiment le bouche à oreille. Et pour moi, c'est une grande fierté, en fait, d'être passé par cette voie-là, parce que elle est intemporelle, en plus. Vous voyez? Et ça, c'est important je pense qu'il y a des phénomènes, on en parle beaucoup, puis après, ça disparaîtra. Ça correspond à un temps. Quand on s'installe doucement, souvent, on reste longtemps, en fait. Et puis, il se trouve que ça me convient parce que finalement, mes thèmes, ils sont intemporels, justement. Donc voilà, ils parlent avant tout de ce que nous sommes. C'est comme je disais tout à l'heure, lié à mon enfance et à mes problèmes existentiels. Et ça, je pense que tout le monde a ça. Et donc, à partir de là, bah voilà, ça vient. J'en sors quand j'ai quelque chose à dire, comme je disais l'autre jour. Et puis quand je n'ai rien à dire, je ferme ma gueule. C'est tout.
Parce que en effet, le premier Jules, c'est 99, c'est ça, je pense. Et donc, on parlait de Marjane Satrapi, où on suit ce personnage qui grandit. En fait, Jules aussi, on le suit finalement depuis maintenant quelques années. Ça s'inscrit dans le temps. Et j'en viens à une question plus par rapport au projet. Il y a eu donc le fameux journal d'un ingénu de Spirou, mais tu travailles sur d'autres choses par rapport à Spirou. J'ai l'impression que ça aussi, ça va inscrire comme ça ton travail sur Spirou et dans une sorte de temps et de durée qui est assez intéressante et assez fascinante, parce que ça nous accompagne comme ça. C'est une œuvre qui nous accompagne, et ça, c'est assez précieux aussi.
Bah, en fait, c'est toujours le même propos. C'est je pense que ce qui est le plus difficile en fait dans une vie, c'est de se comprendre, d'arriver à se connaître. Et moi, c'est ça qui me fascine. Moi, et c'est pour ça que j'ai envie de parler aux enfants en fait de la construction de soi, en fait, de l'apprentissage de la vie. Et en fait, que ce soit dans Jules, qui à travers des histoires un peu loufoques, il y a la science, puis un peu la philosophie, on va dire, les questions sur soi, sur la mort, sur n'importe quoi, sur la relativité. Et Spirou, dans le tourbillon de l'histoire, l'histoire avec un grand H, c'est savoir quelle est notre place là-dedans, dans cette vie. Et à partir de là, je pense que c'est un problème, c'est tellement troublant quand on est enfant qu'on a besoin, en fait, de support, enfin, d'aide, en fait, en tout cas, pour avancer. Et il me semble qu'à travers des petites histoires comme ça, avec le sourire, parce qu'attention, c'est très important, le sens de l'humour, le fait de le dire avec humour, avec détachement, ce qui nous fait là aussi relativiser, eh ben, ça accompagne vraiment l'enfant et ça l'aide peut-être à se comprendre un petit peu mieux. Bon, encore une fois, je prétends pas faire une éducation complète, mais en tout cas, je disais souvent, quand j'ai une série qui s'appelle Les Ours Nains, là, qui s'adresse aussi aux plus petits, mais aux adultes aussi. Et en fait, je dis souvent, quand je parle de cette série, que j'essaye de redonner du sens au conte, c'est-à-dire le sens qu'il avait en fait à l'origine, c'est-à-dire en fait une forme d'éducation préparait les enfants à ce qu'il y avait de plus dur en fait, qui était la vie qui les attendait. C'est pour ça que les contes étaient horribles en fait quand il y a quelques centaines d'années, enfin les contes de Grimm ou sur tous les contes de Perrault, enfin genre les trucs le Barbe Bleue, tous ces trucs là ou même le Petit Poucet, c'est quand même une famille qui abandonne ses enfants, enfin genre tout ça c'est dû à la famine, enfin c'est terrifiant en fait ce qu'on leur racontait aux enfants. Et ben moi je pense que c'est nécessaire de continuer à faire ça parce que la vie est vraiment très dure. C'est terrible ce qui nous attend en fait, ce qui attend un enfant, ce monde-là est vraiment, je sais pas s'il est, il est peut-être pire même que celui de cette époque. Et à partir de là, il faut les préparer à prendre du recul, et surtout avoir le sens de l'humour. Il me semble que c'est le meilleur, ça s'apprend aussi l'humour, et c'est la meilleure arme, je pense, pour préparer l'avenir, mais en tout cas les préparer à la dureté du monde, quoi. Il faut pas leur donner des mièvreries, quoi, à lire. C'est pour ça que je suis archi anti Disney, par exemple. Je ne supporte pas en fait tous ces gens qui disent « Oh là, il ne faut pas traumatiser les enfants. » Mais bien sûr qu'il faut les traumatiser. Et moi, j'ai été traumatisé dès mon enfance parce que je me rendais compte que j'allais mourir un jour, vous voyez, et que les gens que j'aime autour de moi allaient mourir. Et ça, c'est terrifiant. On est traumatisé. Et celui qui ne l'est pas, il se sera encore pire le jour où il se prendra ça dans la gueule, quoi. Donc, il faut se préparer. Et à partir de là, si on se prépare avec un peu d'humour et un peu de distance, ben, ça me paraît bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris à accepter tout ça. C'est toujours par l'humour. Et c'est pas du cynisme. C'est juste, en fait, rire de l'absurdité, c'est simple. Et puis en Belgique, en plus, puisqu'on est en Belgique ici, bon, c'est ce que c'est, hein, quand même. Donc voilà, quoi. Et donc c'est tout ça pour dire que voilà, c'était c'était quoi la question?
Non, c'était les projets de Spirou.
Ah oui, Spirou. Mais
Donc c'est toujours pareil. Moi, Spirou, j'ai envie de parler de. Je parle d'un enfant en fait qui rentre dans le monde adulte et dans un monde en fait. C'est un Spirou qui va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'il y a de pire. Mais la Seconde Guerre mondiale, c'est le pire trauma qu'il y a eu au XXe siècle, ou peut-être même le pire trauma de l'humanité, quoi. Et un enfant plongé là-dedans, ben, j'ai besoin d'expliquer comment on peut s'en sortir sans être un héros, bien sûr. Mais vraiment, on se pose souvent la question de savoir qu'est-ce que j'aurais fait à cette époque. Je pense qu'on n'aurait pas fait grand-chose. Et ben c'est ça qui est intéressant à expliquer. Et comment est-ce que finalement on peut devenir un héros sans faire grand-chose ? Et ben en restant humain, déjà, je pense qu'on peut devenir un héros. Et c'est ça que j'ai envie de dire en fait. Et ça fait partie de la construction d'un enfant et d'un homme. Et ça, c'est, et là, c'est, ça veut dire quelque chose. Et donc, je parle toujours de la même chose. Finalement, dans mes bouquins, c'est, voilà, c'est dire à un enfant, bon, alors, ça va pas être facile, mais tu vas voir, on va s'en sortir parce que, regarde, c'est vraiment drôle, c'est vraiment un théâtre autour de toi, ils sont tous, il y a vraiment des, il y a des polichinelles partout, y a, c'est hyper drôle. Donc, il faut prendre cette distance pour évoluer dans ce monde, quoi, et trouver sa place.
Ça me fait penser à une phrase, de nouveau, au détour, d'une case comme ça dans un Jules où y a un personnage qui dit ils parlent de la guerre, ils ont été visités, c'est un personnage anglais je pense, et ils ont été visités des cimetières, et il dit à sa fille parce que sa fille dit mais ces cimetières sont laids, ils sont pas très gais, ces cimetières de soldats, et puis lui il dit la guerre est laide, et tant que nous aurons une vision romanesque des conflits, ils se perpétueront. Et je trouvais ça assez intéressant comme phrase, parce que justement on voit arriver tout le temps, toute l'année, des superbes bandes dessinées sur la guerre avec des avions, avec et ça a l'air en effet super quand on voit ça, on dit ben moi aussi je veux être pilote d'avion, pilote de chasse, parce qu'en plus j'ai souvent quand même une femme à gros seins qui m'attend en descendant, enfin voilà. Et donc ici c'est presque le contre-pied enfin, en tout cas de ce genre de production, et l'antithèse quoi, donc
Merci, mais justement, encore une fois, c'est lié à l'enfance. Moi, je pense qu'on est endoctriné quand on est enfant. On joue à la guerre quand on est enfant parce qu'on parle de héros, on parle d'actes ultra courageux. On a vraiment une vision hyper romantique quoi, de la guerre. Alors que quand on l'étudie réellement, c'est une boucherie, c'est juste un truc abominable. On n'a aucune chance en fait de s'en tirer. Quoi. C'est une hécatombe. C'est un massacre, c'est tout. Et celui qui s'en sort, c'est pas un héros, c'est juste un type qui a eu de la chance. Et voilà quoi. Moi, j'ai eu un père en fait qui s'est battu pendant la guerre d'Espagne et qui m'a parlé de sa guerre toujours sans jamais la fantasmer, en me montrant toujours son problème de survie. Et ça m'a beaucoup marqué en fait, et depuis toujours. Et j'ai envie de le faire passer aux enfants. Voilà.
Voilà, on va bientôt clôturer cet entretien en effet. Tu es venu dans ta besace avec un morceau de musique.
Que tu vas pouvoir nous présenter.
Et oui, bien sûr. Eh bien, il s'agit de. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a. Ah. Oui, il y a un truc que j'aime bien là en ce moment. Je l'écoute de temps en temps. C'est un type, je crois, qui s'appelle Maurizio Gans et qui a fait une chanson qui s'appelle An Eye for an Eye, qui est en fait il a repris en fait la musique de Morricone. Alors je crois que c'est dans Le Bon, la Brute et le Truand, ou alors Pour une poignée de dollars. C'est un des trois là, une de la trilogie. Et il a mis des paroles dessus en anglais. C'est un italien pourtant, mais c'est pas mal du tout. Et donc voilà quoi, ça me rappelle quand j'étais gamin et que je jouais au cowboy. Voilà.
Bon bah merci Émile et à la prochaine.
Merci à vous. Allez, à bientôt.